Salut!
Le podcast enregistré depuis Space
et
Mountain.
Bienvenue dans les staminaires de le podcast enregistré depuis Space Mountain, le podcast comics, société et culture pop qui influence vos influenceurs. Notre établissement est ouvert jour et nuit, partout où on sait lire un flux RSS et où on peut être malheureusement, malencontreusement interrompu pendant son intro par un freluquet, voilà, un énergumène qui n'avait rien à foutre
un
là.
Un faquin!
Je parle bien sûr de Chris Was Right. Salut Chris.
Salut Matt, comment ça va?
Ça va.
Oh, c'est ouais, un petit ça va, ça dit donc, tu sais, dans la vraie vie, les gens ils disent oh, c'est un petit ça va, oh, toi tu m'as pas l'air, ça m'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui t'arrive, Matt?
Vous vous souvenez des premiers épisodes où on disait ça fait chier dans les débuts de podcast quand les gens disent ouais comment ça va et tout, parce que de toute façon personne pour répondre ah ben non ça va pas, et puis en fait tout le monde s'en fout parce que bon est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup j'ai cherché une réponse à ta question qui soit à la fois drôle, irrévérencieuse, pertinente et impertinente.
Et on est également avec Valentin. Valentin, comment ça va?
Eh ben écoute, ça va, et toi Chris?
Ben ça va.
Formidable. Mais il faudrait aussi poser la question à Yanda, ici présent aussi ce soir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je te sers, mon petit Yanda?
Mets-moi de l'eau, hein, c'est la fin du mois, on est sec, hein.
Ah ben écoute, moi aussi je t'accompagne. Allô Matt, es-tu toujours parmi nous?
Bien sûr, et notre proverbe du jour sorti de mon petit livre de proverbes, hein. Ouvrons-le à une page au pire. À la guerre,
une page au pire,
comme à la guerre, est-ce que ça fonctionne? À la guerre, sous la couette, comme à la guerre, dans ton cul. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. On en teste un autre ou on s'en garde pour la prochaine fois?
Ah, vas-y, un petit autre en plus.
Un demi.
Un autre pif.
Un demi.
L'occasion fait le larron.
Ah oui.
L'occasion sous la couette
fait le larron dans ton cul.
Dans ton
exactement.
Cul. Un très très beau livre que j'ai acheté 2,90€ avec des proverbes chez First Edition. Je l'ai acheté il y a 6 ans, je ne savais pas quoi en faire. Il a enfin trouvé un sens, ce petit livre. Il va être la star de ce podcast.
C'était nouveau.
Une star, c'est... Hey, d'ailleurs, c'était pas du vol d'acheter ce truc-là 3€. C'est pour faire la star de ce podcast. Et puis, bah ça tombe bien parce que la star des voleurs, c'est Lupin. Transition, on en parle.
Excellent.
Quel professionnel, putain.
Ah là 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 là
là là là là là.
Mais quand tu dis Lupin excellent, tu veux dire Lupin, c'est vraiment excellent? C'est ça que t'es en train de nous dire?
Je parlais de ta transition. Après Lupin, de là à dire que c'est excellent, je n'irai pas jusque là, mais j'ai apprécié malgré tous ses défauts,
dont Omar Sy ou pas du tout?
Non, pas pour moi. J'aurais plus des défauts sur des faux raccords,
attendez,
des choses comme ça.
Matt, qu'est-ce que c'est Lupin?
Ah ben oui, c'est vrai, pour celles et ceux qui nous écoutent qui n'ont pas la couleur, s'il te plaît.
Eh bien, Lupin est une série, on aurait dit série télévisée dans le temps. Je ne sais pas comment on dit maintenant, puisque c'est une série Netflixisée, en fait. Donc, on peut la regarder sur un téléviseur, un ordinateur, qu'il soit portable ou fixe, une tablette, un smartphone, ou tout appareil qui permet de projeter des images vidéo depuis une source Internet. Donc, en fait, c'est une série télé. Qui a fait le buzz, hein, évidemment, puisque on va pas faire genre, on va présenter Lupin alors que c'est la série visiblement la plus vue de Netflix du moment, ou qui bat des records. Enfin, j'ai pas suivi, mais il y a un truc genre, en gros, ça cartonne. Et c'est avec c'est une série moderne, c'est une série qui est portée par l'acteur Omar Sy, qui joue un personnage qui s'inspire des méthodes du gentleman cambrioleur Arsène Lupin.
Intéressant.
En gros, c'est ça. Hein.
En gros, c'est ça. Ouais. C'est la première partie, du coup, puisqu'il y a 5 épisodes. Et c'est la partie 1.
Exactement.
La suite est fin, partie 2, donc, logiquement, si on tient compte de façon correcte.
La partie 2 sera toujours pareil. Il y aura toujours Omar Sy, il y aura toujours une référence à Arsène Lupin.
Peut-être, c'est vrai.
Toi, t'as pas aimé, Matt.
Attends, on est là pour écouter Yanda. On a déjà beaucoup entendu depuis le début de cette émission. T'avais commencé à en parler.
Moi, j'ai globalement apprécié. J'ai trouvé ça sympa. C'est clairement une série française à la Netflix, Donc on n'est pas sur un scénario, on est sur un scénario ultra prévisible, des ficelles grandes comme des grosses comme des cordes de navire, n'est-ce pas? Et mais voilà, ça se regarde. J'ai trouvé que ça n'avait pas forcément la prétention d'une super production en dehors de la com, etc. Mais au niveau de la série elle-même. C'est somme toute ça fonctionne quoi. Après il y a des trucs qui m'ont fait sourire, des faux raccords, des incohérences où je me suis dit ah vas-y ils abusent, mais bon voilà, pas plus que ça quoi.
Dis pour voir.
Alors le
ouais. Bah voilà.
D'accord.
C'est tout.
Ok. Voilà. Non, je peux te dire parce que c'est pas des spoils. Il y a les premiers faux raccords qui m'ont un peu fait tiquer, les incohérences. C'est une des scènes assez rapidement où il est chez trois personnes dans un appartement. Il y en a un qui joue à la console, qui joue à il me semble un jeu de bagnole, je sais plus lequel, avec une manette qui n'est pas allumée. Et de là s'en suit une rixe où un des protagonistes se retrouve la tête dans la télé se pète et le plan juste après la télé.
Ah ça je l'ai vu oui aussi.
Et du coup ça m'a fait sourire mais je me suis dit ah ouais d'accord.
Je regardais la série avec un pote et j'ai lâché un mais elle était pétée la télé voilà.
c'est exactement ça et mais après bon voilà ça passe c'est gentillet quoi. Mais donc non globalement j'ai à aucun moment été vraiment surpris par les twists et les différents trucs mais j'ai été suffisamment accroché par l'intrigue et la façon dont c'est amené pour regarder les 5 épisodes.
J'ai été surpris, moi je vous dirai pourquoi après, quand ce sera mon tour.
Eh bien c'est ton tour Valentin, je te passe la main.
Flambeau. Moi j'ai été surpris, cette série m'a surpris.
Ce serait cru dans Pyramide, je passe la main.
en parapluie, substantif, ah oui bien sûr. Donc non, moi j'ai été surpris par le fait que cette série s'est retrouvée en top 10 en France et top 10 aux États-Unis. Comme je suis un fact-checker, donc un cocktail de facts, je vais tout de suite essayer de retrouver l'info pour voir. Je crois que c'était top 1 même, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis.
Oui,
c'est
aussi.
Ça, dans le top 10 US. Elle parvient d'ailleurs à se hisser à la première place de ce même classement le 10 janvier 2021. Et ceci me surprend beaucoup car je partage plutôt l'avis de mon comparse Yanda ici présent. Le premier épisode a été compliqué. J'avoue que j'ai failli abandonner la série après avoir vu le premier épisode parce que je m'attendais du fait de son succès, je m'attendais à un truc vraiment qualitatif et c'est sympathique, on va dire. C'est surtout que oui, effectivement, les ficelles sont énormes. Aucune surprise, je vais pas redire ce que Yanda a dit. Mais du coup, grosse déception par rapport à ce qu'on m'avait vendu. Omar Sy pour moi est quelqu'un qui m'est tout à fait sympathique. Le gars a l'air super sympa, y a pas de souci. C'est un acteur, donc il sait jouer. Après, je ne trouve pas que ce soit le meilleur acteur de sa génération et la série Lupin le prouve encore. Il livre pas une expérience où je me dis waouh quel travail d'acteur exceptionnel. Il est correct quoi donc voilà. Mais bon,
ce qui est impressionnant avec Omar Sy c'est le parcours en fait. C'est-à-dire que il y a 20 ans il faisait guest dans des sketchs de Jamel sur Canal. Ensuite il a fait Doudou dans le SAV des émissions.
Avant Canal, c'était Radio Nova même où ils étaient.
Oui, mais c'est la bande, c'est toute la bande de Jamel en fait.
C'est ça, ouais.
C'est,
pardon,
excusez-moi. Et c'était
sale.
C'était sale.
C'était sale, hein. Ouais, je suis vraiment navré.
Mais là, mais en fait, tu vois, au début, quand ils sont arrivés avec Fred, ils étaient vraiment le. Il y avait Jamel qui était en lead. Il y avait Eric et Ramzy qui étaient déjà un peu le side project. Et il y avait deux faire-valoir qui étaient avec eux, qui étaient Omar et Fred en fait. Et quand en 20 ans, ces mecs sont passés de ça à Omar Sy qui fait Intouchable et puis une carrière américaine tout à fait incroyable.
Et Fred Testo qui fait la pub EDF, donc quand même.
Ouais.
Et Eric de Eric et Ramzy, il fait quoi? Il faisait EDF aussi, non? Avant?
GDF non, ou EDF, il a fait une pub aussi. Non, non, Fred Testo, il a fait, ouais, il fait pas mal de pubs. Il a fait une pub pour Burger King et puis d'autres
oui,
trucs.
Oui, je dis EDF, mais c'est peut-être pas EDF, effectivement.
Je suis pas certain qu'il ait fait une pub pour EDF, je sais pas. Bref.
Ah là là.
Excusez-moi
là
de
là
vous
là
couper
là
pour raconter des balivernes.
Pour raconter des placements de produits, quoi. Putain, quel ouais honneur, quoi.
Allez, c'est moi le chèque. Moi le chèque de EDF.
Juste pour terminer vite fait sur Lupin, en fait, j'ai bien fait de continuer parce que je me suis un peu attaché au personnage, on va dire, et ça m'a fait, enfin voilà, j'ai suivi ça d'un œil un peu distrait, mais quand j'ai vu où ça partait, moi j'étais persuadé que c'était une série qui allait faire un épisode, une histoire, enfin une enquête,
un crime.
Ouais, voilà. Alors que c'est pas ça du tout, ouais, en fait. C'est vraiment une histoire découpée en cinq épisodes. Enfin, voilà, ce sera peut-être 10 épisodes,
ouais, y a un
au
vrai
final.
Fil rouge,
mais
quoi,
voilà, ça va au-delà du fil rouge. C'est vraiment, c'est une intrigue globale, quoi, qui se suit vraiment. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai un peu plus adhéré au délire. Mais en tout cas, je reste étonné de son succès, même si je me dis que, en fait, ça se comprend par le fait que c'est une série familiale, en fait. Tu peux vraiment regarder ça avec tes enfants de 10 ans, de 12, 13, 15 ans, et toi, tu es la ménagère de plus de 50 ans, et tu peux tout à fait kiffer aussi Lupin. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché. Après, voilà, je ne suis pas...
Tu veux dire que c'est la même merde qu'à la télé, c'est ça que tu veux dire?
Bah, ouais. En vrai, ouais, c'est un peu ce que je veux dire. C'est un truc hyper calibré, mais assez bien fait pour que ça ressorte un peu du lot. Mais c'est pas, c'est même pas du niveau de, comment dire, du jeu de la dame, quoi, de Queen's Gambit. Du coup, je trouve ça en dessous. Hein. Voilà. Après, c'est un avis personnel, mais voilà. Donc, bon, j'ai envie de savoir le fin mot de cette histoire, donc je verrai la partie 2. Mais voilà, ce n'est pas le truc exceptionnel qu'on m'a vendu. Voilà.
Ah, y a deux trucs, moi, c'est avant que
Qu'on termine l'émission.
Flambeau à Matt. Oui, aussi, c'est vrai, parce que il se fait tard. je vais juste rebondir sur deux trucs. La première des choses, c'est quand tu abordes la prestation de comédien d'Omar Sy. Je pense que là, en l'occurrence, effectivement, le scénario et ce qui est attendu de son personnage dans Lupin ne se prête pas non plus à une performance assez dingue. Et d'ailleurs, je trouve, en plus de ça, on comparait avec Fred Testo a été, pour moi en tout cas, en mesure de prouver beaucoup plus de choses en termes de palette de comédien que ne l'a été Omar Sy au cours de sa carrière, mais ça c'est un autre truc.
T'es fou ! Il a fait Bishop dans les X-Men.
Ben ouais, j'ai pas vu. si j'ai vu en plus, je mens. Mais du coup, ça c'est une chose. Et après le succès, je crois. Alors là, je m'avance, mais de ouf. Je crois que ce qui a plu, ou en tout cas ce qui a peut-être contribué au succès de la série Outre-Atlantique, c'est cette imagerie Frenchy Paris nos amis américains raffolent, oui. Tels que la série Emily in Paris, ou je sais plus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui avait cartonné aussi. Mais voilà, c'est très... c'est
ouais,
très Frenchy, t'avais des super plans, puis t'as plein de plans de Paris et ailleurs
qui sont, stylés,
qui sont
en vrai,
typiquement
en plus.
Ouais, je pense que le budget est passé là, hein. il y a des super plans de drone, oui. à plusieurs moments où tu te dis d'accord, mais ça a de la gueule, c'est vrai que ça a de la gueule. Donc je pense que c'est vraiment toute l'imagerie en plus du pas personnage de Lupin, mais enfin voilà, l'ambiance à la Lupin et de tout ce qu'il y a autour, que j'ai trouvé assez cool d'ailleurs, plutôt bien trouvé, bien tourné, ça c'était assez malin, parce que quand il y avait eu toute la polémique à la sortie de la série, dire ouais mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, comment ça Arsène Lupin est joué par un acteur de couleur, mais c'est scandaleux, c'est n'importe quoi, bref, ces gens-là donc n'ont visiblement même pas regardé
même
le premier quart d'heure de la série,
bien sûr, c'est ça, tout à fait.
Donc voilà, mais ouais, je pense que c'est cette imagerie très très française qui doit aussi contribuer à son succès.
Parisienne surtout, parce que tu filmerais des mecs dans la campagne profonde en France, je pense pas que ça aurait la même aura, tu vois.
Ça dépend. Bienvenue chez les Ch'tis a été adapté avec Will Smith.
C'est vrai. Je retire ce que j'ai dit. Pardon. Hein,
Paris cité, hein. Il y a quand même un peu de tiécard. Il y a des plans de décor de quartier.
C'est un tiécard propre, hein. C'est pareil, hein.
Eh bien, je vous trouve, particulièrement tendre avec, avec cette production visuelle.
J'avais hâte de voir celle. Ça y est, la Bretagne arrive.
Parce que je vais vous dire quelque chose que je ne dis jamais sur rien, mais en toute objectivité, c'est de la merde! C'est de la merde à tous les égards! C'est mal écrit, c'est pas intéressant, c'est mal joué, y a pas d'enjeu, y a des les surprises sont pourries, les twists, les rebondissements, la façon dont il va dans l'infirmerie, la façon dont il s'infiltre dans les trucs, la façon dont, tout est, tellement gribouillé, tellement facile, tout est nul, on dirait. C'est écrit par un enfant de 6 ans qui joue avec ses Playmobil. En fait, c'est fascinant de nullité. À la fin du premier épisode, j'ai dit, bah attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette série pour que
c'est quoi le projet?
Je me suis arrêté au 2e épisode. Ouais. J'ai pas tenu aussi loin. Je me suis dit, je suis totalement en train de perdre mon temps. C'est pas possible. Je vibre pas. Il y a rien du tout. Et c'est ce que tu disais. En fait, c'est un produit qui est calibré exactement comme un produit télé. Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attends quand je vais chercher une des séries stars en production Netflix qui nous a habitués à beaucoup mieux. Et là, en fait, on est vraiment effectivement sur un produit familial calibré télé et tout. Ce que je déteste globalement, qui ne me plaît pas, qui ne me parle pas, tout ça. Et du coup, eh bien, le fait de tomber sur un produit qui, disons-le poliment, n'est pas fait pour moi, ne correspond pas à mes attentes et à mes standards, sur une plateforme qui justement est censée un peu relever souvent des critères de production, prendre des projets dont la télé ne voulait pas, les rehausser, mais leur permettre de continuer, ce genre de choses. Pour moi, c'est de la double, triple, machin, déception, quoi. Et voilà, et même Omar Sy, avec toute la bienveillance que j'ai à son égard, enfin, me fait pas triper dans le truc. C'est ce que tu disais, c'est pas, y a pas de performance d'acteur, y a pas de. On se fait chier, quoi. On se fait chier.
C'est une série de l'été TF1, quoi. J'étais d'ailleurs surpris de pas avoir vu Ingrid Chauvin apparaître à un moment. Je pensais. Mais
non, mais c'est ça. Mais je te suis totalement. C'est juste que en termes de réa. C'est un peu au-dessus du lot et c'est ça qui fait que c'est sympa. Après, moi, je suis le genre de mec, quand j'étais gamin, je regardais PJ avec mes parents le vendredi soir à la télé, tu vois. Donc, c'est les séries familiales cousues de fil blanc où, voilà, ça se suit en mangeant ta pizza avec tes charentaises aux pieds, tu vois. Ça je connais. Donc,
nous, c'était Nestor Burma.
Ben, voilà. Ah, bah ben, oui, Nestor Burma aussi, ouais, tu vois.
Ben.
Donc ça va en fait. C'est gentil, quoi. C'est gentil, surtout ça fait de mal à personne. Au contraire, ça permet même à des gamins de lire des livres d'Arsène Lupin, puisque les ventes ont explosé là depuis que la série est sortie, et c'est les gamins qui lisent ça. Donc la série apporte du bénéfique un peu partout et c'est cool, tu vois. Donc
C'est quand même fascinant, quoi, que la série ait repropulsé Arsène Lupin dans les lectures des gosses, ce genre de choses. Il y a plein de, après ça s'explique par plein de choses, mais c'est quand même il manquerait plus qu'on fasse une série qui explique aux gens que il faut apprendre à penser par soi-même et prendre un peu des initiatives et arrêter de suivre la meute.
Pour que gens, c'est la curiosité.
Je parle.
Non, mais on sait très bien ce que tu vas raconter, donc je synthétise, tu vois. Ce qui manque aux gens, c'est la curiosité d'aller voir ce qu'on leur montre pas, c'est tout.
Point, moi, voilà. J'attends une série sur Adolf Hitler pour que les ventes de Mein Kampf explosent. Tu pourras l'enlever.
Il y a
hein,
un petit débat en ce moment parce que ça va être. Non, mais ça va être réédité apparemment. Il y a une histoire en France. Ils vont ressortir une édition commentée, je suppose.
Oui, c'est ça.
Et ouais. Apparemment, il y a un énième débat. Faut-il rééditer Mein Kampf?
Mais commenté par qui?
Par Eric Zemmour.
Je suis. Ah, bah alors là, ça vaut le coup à mon avis. On va apprendre des trucs. Hein.
Bon, et toi, Chris, on n'a pas réussi à te faire regarder Lupin, en fait.
Non, parce que moi, j'aime pas trop les voleurs. Donc, je trouve que faire l'apologie du vol comme ça, c'est pas terrible, ok?
J'aime
Netflix,
pas trop les voleurs,
sur ce coup-là, Netflix, je vous félicite pas, hein.
Donc, toi, non, moi, je préfère les hommes violents, la bagarre.
Je préfère la bagarre! Moi, j'ai regardé Cobra Kai, puisque Yanda, ici présent, l'émission. Me l'avait recommandé, et puis mon frère m'en avait parlé aussi.
Yanda, il a recommandé.
Donc, j'ai regardé, tout à fait, donc j'ai regardé les 3 saisons de Cobra Kai, qui est donc la suite, de la saga Karate Kid, qui est aussi sur Netflix. Mais rassurez-vous, en fait, on peut très bien mater Cobra Kai sans se taper la trilogie Karate Kid. D'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un quatrième film qui s'appelle Miss Karate Kid, ou The Next Karate Kid, en VO, avec une jeune femme à la place du héros de la première trilogie, mais ça n'a aucun intérêt.
Voilà. C'est comme Miss Pac-Man.
C'est avant ou après celui avec Jaden Smith?
Ils avaient pas fait un...
Non, c'est avant. C'est avant. Ah. C'est vraiment un quatrième film. Hein. C'est vraiment, ça s'inscrit dans la continuité des trois premiers.
Il y avait pas eu un reboot avec Jackie Chan aussi, il y a quelques années, il y a 5-6 ans?
C'est ce que vient de dire Yonda.
Ouais, pardon. C'est ça. C'est
moi, j'ai parlé de l'autre, du coup.
Pardon, je suis désolé, j'ai pas...
Avec Jaden Smith.
Ah, c'est ça. J'avais entendu Jaden Smith, mais tu vois, j'ai pas... Voilà. Allez, je m'en vais. Salut.
Bonne soirée, Valentin. Et
à bientôt.
Tu devrais le voir, il est bien, hein.
Et donc, cette suite de Karate Kid, en fait, elle part d'une vanne. Alors, je sais pas si c'est vraiment entièrement dû à ça, mais si vous avez regardé How I Met Your Mother, qui est vraiment une série que j'adore, le personnage de Barney Stinson a une vanne qui consiste à avoir mal compris Karate Kid. Donc, dans Karate Kid, tu as un héros qui s'appelle Daniel LaRusso. Et ce fameux Daniel arrive dans
une... Rien à voir avec la chanteuse, voilà.
Je savais que quelqu'un allait faire cette blague, mais je ne pensais pas que deux personnes allaient faire cette blague. Je suis un peu déçu.
Voilà.
Et donc Daniel, il arrive dans une nouvelle ville avec sa mère. Il se fait un peu, tu vois, un peu harcelé, tu sais, un peu malmené par les gamins du bled. Et du coup, bah, il apprend le karaté pour se défendre, puis pour devenir quelqu'un de meilleur. Et donc, il a un adversaire lors du tournoi de karaté qui s'appelle Johnny Lawrence. Et Johnny Lawrence, c'est le méchant, c'est genre le blond, il est badass, c'est le bad boy du bled et tout, voilà. Et donc, le personnage de Barney Stinson, lui, il a mal compris tout ça. Et pour lui, dans How I Met Your Mother, le héros de Karate Kid, c'est Johnny Lawrence, c'est le méchant. Et bah du coup, Cobra Kai part exactement de ce principe-là en disant « Mais en fait, vous n'avez jamais compris Karate Kid, le héros depuis le début, le mec sympa, celui à qui il est arrivé que des merdes et qui n'a pas eu de chance, c'est Johnny Lawrence. » Alors bon, ça en vrai, c'est le pitch du début de la première saison, parce qu'après la série part complètement sur autre chose, je vais pas spoiler évidemment. Mais on pourrait y croire. Alors, il y a des gens apparemment qui ont décortiqué Karate Kid après coup, tu vois, pour se dire ah, « Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible ?» Bon, visiblement, c'est quand même assez peu probable, mais... Bon, la série part sur ce postulat qui est plutôt rigolo. Il y a plein de flashbacks par rapport à la trilogie originale, surtout au premier film, qui renvoie justement à ça en expliquant ce qui se passe du point de vue de Johnny Lawrence. Et donc, il dit, ben non, mais en fait, tu vois, moi, j'ai dû me défendre. C'est parce qu'à chaque fois, c'était Daniel qui m'attaquait. Bon, des fois, c'est plus ou moins crédible, mais c'est plutôt marrant. La série surfe à fond sur l'esprit revival années 80, film d'action un peu badass, tout ça, on est en plein dans cette mode là. La première saison, les épisodes sont assez courts, ils font entre 15 et 30 minutes pour les plus longs, donc ouais, ça se regarde vraiment bien. Sur les saisons 2 et 3, on passe vraiment à un format 30 minutes quasiment à chaque fois. Et c'est là que je suis un peu plus mitigé, parce que très clairement, sur la deuxième et troisième saison, on voit qu'on commence un peu à tirer sur la corde pour rallonger tout ça. Alors, c'est pas constant, mais une fois encore, je peux pas tout spoiler, mais il y a clairement des personnages. Les personnages secondaires sont assez bien développés, et ça, c'est vraiment un point positif. Il y a plusieurs persos secondaires qu'on apprend à connaître et tout. Mais il y en a qui sont des girouettes puissance 10 000, quoi. Genre, le mec, c'est son meilleur pote le lundi. Le mardi, ils sont fâchés. Il a deux doigts de le tuer, parce que du coup, ils font tous du karaté, hein. C'est une ville où tout le monde fait du karaté. C'est normal. C'est comme ça. Bon. C'est genre comme dans Pokémon. Tous les enfants de 10 ans partent de chez eux, tout seuls dans la forêt, comme ça. C'est
pour
normal.
Capturer des animaux sauvages.
Ben voilà. Et ben là, c'est pareil. C'est normal. Bon, ben là, ils font tous du karaté. Mais genre, ils font du karaté vénère, hein. C'est pas, voilà. Ouais. Ils se mettent vraiment des bonnes grosses tatanes. Et du coup, il y a parfois des retournements de situation un peu tirés par les cheveux. Alors, comme le ton de la série est pas très premier degré, ça, il y a un peu, c'est aussi un peu léger, un peu rigolo. Et des fois, c'est moins rigolo d'ailleurs. C'est aussi, il y a aussi des passages un peu plus touchants, entre guillemets. J'ai pas pleuré devant Cobra Kai, hein, je suis désolé, mais il y a des thématiques, voilà, qui sont pas trop connes et tout. Et il y a surtout la thématique principale qui est, de ne pas se laisser faire, puisque la base, c'est quand même, genre, on va prendre les losers et on va en faire des gens badass, voire limite, ils vont devenir eux-mêmes des harceleurs, et du coup, là, c'est plutôt un mauvais exemple. Mais, il y a vraiment ce côté, ouais, cette série-là, c'est la revanche des losers. C'est genre le perdant de Karate Kid, qui était en fait pas un méchant, malgré tout ce que le film te montre, qui décide de monter son école de karaté, qui va forcément se frotter à son ancien adversaire, qui lui, n'était peut-être pas le héros de l'histoire. Enfin, il y a tout cet angle-là est vraiment intéressant. Après, voilà, ça devient une série télé au bout de trois saisons où, voilà, il tire un peu sur tous les fils pour faire durer le truc. Mais c'était plutôt une bonne expérience, cette série.
Tu dis c'est la revanche des losers. Tu dis ils sont copains le lundi, ils sont fâchés le mardi, ils manquent de se tuer. En fait, c'est un peu le résumé de cette émission.
On n'a jamais failli s'entretuer ici quand même, non ?
Oh, ça a pu arriver. Toi, tu t'en souviens pas parce que t'as gagné, mais
c'est pareil. Bah, mais ça, c'est l'histoire est écrite par les vainqueurs, hein, c'est toujours comme ça. Ouais, j'ai bien aimé Cobra Kai, donc les gens ont bien fait de me conseiller. Ils connaissent mes goûts de merde. Bah, tiens, lui, il a vraiment des goûts de merde. On va lui dire de mater Cobra Kai. Et puis j'ai enchaîné sur Viking parce qu'en ce moment, je me suis dit bon, j'ai des séries à rattraper. J'ai enchaîné. Est-ce que vous voulez que je vous parle de Viking ou est-ce qu'on s'en va ?
Bah oui, ce serait mieux.
Bah écoute, non.
Juste avant, un tout petit truc sur Cobra Kai. J'ai pas encore vu moi la saison 3, donc du coup tu.
Eh ben, bah, alors, ça va aller. Ouais, de dire ça,
tu
Yonda.
M'as rattrapé et devancé. Et en fait, quand tu dis qu'il y a un vrai changement de dans l'approche et dans le scénario où tu sens que la saison 3 il tire un peu sur la corde et tout. En fait, la saison 3 est une production Netflix. C'est-à-dire que Netflix a racheté les droits de la série à la fin de la saison 2. Et donc la saison 3, c'est une prod Netflix. C'est-à-dire que Netflix a racheté les droits parce que la saison 1 et saison 2 avaient cartonné.
À l'origine, c'est une web-série d'ailleurs, je crois, la toute première saison.
Ouais, c'est vraiment la saison 1, c'est une série qui était inédite sur YouTube Premium. Qui avait fait partie du coup des exclus au lancement de la formule de YouTube Premium. Et du coup, donc voilà, si la saison 3 est vraiment... prod Netflix en mode il faut qu'on surfe sur le succès, ouais mais on n'avait plus rien à dire, vous trouvez les mecs, vous vous démerdez, effectivement
ils font ça,
on peut comprendre.
Ouais, non, il y a un petit peu de ça, c'est pas mauvais pour autant, attention, la saison 3 est quand même très bien, il y a plein de trucs assez cool et tout, mais on voit par moment, enfin je te dis, c'est plutôt dans la réutilisation de certains persos où on voit que bon, ils le font partir, ils le font revenir, ils changent trois fois de camp, bon tu vois qu'il y a des trucs où ça, voilà, ça tire un peu pour faire les 10 épisodes, alors peut-être qu'en 5 épisodes, tu racontais la même histoire. Après, c'est des recettes de séries télé, hein, voilà, c'est un peu le problème, je pense.
J'irai voir ça. Viking, donc.
Et Viking, Viking, ça fait très longtemps qu'on me dit de regarder Viking. Ça fait genre des années que tout le monde me dit, regarde Viking.
Pourquoi? Il y a combien de saisons?
Eh bien, écoute, je crois que la 6e sort, là où est sortie. Je sais même pas.
Va de Dieu!
Où ils en sont. C'est la dernière, hein, je crois, il me semble que c'est la dernière.
Attends. Attends.
Le fact-checking, attends. Le fact-checking de Valentin.
Attends.
Pendant qu'il fact-check, je.
Combien de saisons dans Viking? Nombre de saisons 6. Et voilà, diffusion originale 3 mars 2013, 30 décembre 2020. Donc est-ce que ça veut dire que c'est fini? J'ai l'impression.
Ouais, c'est ça. Ça
je crois que ça vient juste de finir.
Voilà, donc moi j'attaque ça à la fin, histoire de pouvoir tout mater d'un coup. Finalement,
et
c'est
bon, c'est malin. Ça, le binge.
Ça binge la folle, la guêpe.
Presque à la fin de la saison 2, donc je peux pas vous donner un avis global. Mais pour l'instant, il y a un truc que j'ai vraiment appris. Alors, est-ce que je vous raconte ce que ça raconte? Qui a vu
S'il vous plaît.
Donc personne, je confirme 6e et dernière saison de 20 épisodes. Waouh, 20 épisodes, vache.
Ah oui, c'est plus long. Donc personne n'a vu Viking parmi vous?
Non, pas vu Viking. Mais pareil que c'est très bien.
Non plus.
Ouais. Est-ce que c'est des histoires de Viking?
Donc, dans Viking, on suit un personnage qui s'appelle Ragnar Lodbrok. Qui est alors c'est
il est vénère du coup.
Il est vénère.
Avec un nom comme ça, il est vénère. Quoi.
Il est vénère. Non mais du coup, j'ai été me renseigner un peu sur tout ça parce que j'aime bien savoir ce que je regarde, de quoi c'est inspiré et tout. Et c'est assez intéressant puisque la série alors n'est pas du tout comment dire fiable historiquement, mais parce qu'en fait, tu te rends compte que de toute façon, cette partie-là de l'histoire est assez peu fiable puisqu'en fait, ce qu'on sait de cette période historique dans la vraie vie a été raconté par des moines 200 ans après. Donc globalement, tu vois, en termes de fiabilité, on a vu mieux.
Des moines qui étaient les victimes.
Exact.
Donc on un peu enjolivé
le truc. C'est ce que
tu
disais sur Assassin's Creed. Pourquoi les mecs te disent ouais, franchement les Vikings c'était des dingues, c'était des mecs super vénères. Bah, en même temps quand tu te fais péter la gueule, t'essayes d'enjoliver le truc pour dire que t'as voulu, tu vois, t'as fait ce que t'as pu, mais les gars étaient vraiment chauds en face quoi. C'est un peu ça en gros. Et donc ça s'inspire majoritairement en fait finalement de plutôt de ce qu'on pourrait considérer comme une légende urbaine de l'époque, puisque le fameux Ragnar est un personnage qui existait avant la série, mais qui n'a potentiellement pas réellement existé d'un point de vue historique, mais qui serait plutôt une sorte d'allégorie de la culture viking qui a voulu qu'à un moment, les mecs comme ça prennent
allégorie,
des bateaux et aillent envahir...
Allégorie.
Et aillent comme ça envahir un peu d'autres pays d'Europe. Donc voilà, c'est une sorte de pot pourri d'influence historique, ce personnage. Mais il n'a
comme
pas...
Valentin.
un peu pareil, ouais.
Je suis un peu pourri, moi, ouais, c'est vrai.
Alors qu'à l'inverse, dans la série, Ragnar a un frère qui s'appelle Rollo, et qui lui a réellement existé. Alors sauf que dans la vraie vie, bah c'était pas le vrai frère de Ragnar, parce que Ragnar, on a compris qu'il n'avait pas existé dans la vraie vie, mais Rollo est un vrai personnage historique qui est devenu le premier duc de Normandie. Voilà. Ça c'est bon à savoir.
Eh ben, dis donc.
Eh ouais. Là, ça vous embrouche.
J'ai rien compris. Le mec il existe pas et il a un frère dans la vraie vie. Vas-y, fais-le, voilà. Yanda, fais-le.
Non, les gens qui me suivent auront compris, ouais. Toujours est-il qu'on suit donc ce fameux Ragnar qui s'élève un peu dans l'échelle sociale, donc est un fermier à la base, mais qui est un gars plutôt rusé, plutôt débrouillard, qui sait mener un petit peu les gens derrière lui, un peu comme Matt en fait.
Et
et donc comme il est pas trop con et qu'il a des bonnes idées, bah il trouve une technique pour naviguer bien au-delà des limites connues et aller à l'ouest pour chercher des richesses. Et il arrive à fédérer les gens comme ça derrière lui et à aller envahir notamment un monastère en Angleterre. Et justement, il y a un gros point religion, en tout cas dans les deux premières saisons que j'ai vues pour l'instant, qui est hyper intéressant. Parce que cette série-là a traite avec beaucoup de justesse, je pense, du choc des cultures. Alors à l'époque, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Et vraiment au rapport en fait de l'évolution de la religion et comment aussi l'Europe, parce qu'il y a tout un aspect à cette époque-là de IRL hein, encore une fois, de conversion de l'Europe au christianisme et tout ça, et la série en parle, et c'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue donc d'un côté de ces Vikings qui arrivent comme ça chez les Anglais et qui les voient très pieux, chrétiens, etc. Et d'un autre côté, d'avoir la vision des chrétiens qui, eux, découvrent la culture viking. Enfin bref, encore une fois, je ne spoil pas, mais cet aspect-là est hyper creusé et hyper intéressant. Après, pourtant, là où j'en suis qu'à la deuxième saison, mais il y a déjà quelques grosses ficelles, un peu comme dans Cobra Kai d'ailleurs, avec parfois notamment Ragnar, alors c'est pareil, pas de spoil. Mais il y a un paradoxe, alors c'est peut-être moi qui comprends pas le personnage, mais d'un côté, on a donc un gars qui est plutôt malin, qui est une sorte de leader, tu vois, qui arrive à fédérer les gens derrière lui, il arrive quand même à convaincre des mecs de quitter leur pays pour partir en mer et ils savent pas où ils vont, tu vois. Donc il y a quand même les gens ont foi en lui, mais d'un autre côté, il est capable de se laisser porter par les événements. Des fois le mec, il est assis avec une tête de défoncé puissance 10 000, tout part en couille autour et il fait rien. Et il subit. Et je me dis, il y a une petite incohérence dans son comportement. Alors je sais pas si un jour ça sera expliqué ou si c'est moi qui pige pas le perso. Il y a un aspect aussi. Alors comme ça traite un peu de religion et des croyances de l'époque, il y a tout un aspect un peu destin, un peu genre les dieux te sont favorables ou ne te le sont pas. Mais
destin, le jeu de société du coup.
Tout à fait.
Jouer à destin, changer de vie.
Mais oui, évidemment. Voilà. Eh bien, on voit que la publicité nous a vraiment lavé le cerveau ici. Hein.
Génération culture pub.
C'est donc bref, en tout cas, voilà, ça commence vraiment bien et je me suis lancé effectivement à mater les saisons et je pense que je vais continuer. Donc voilà, peut-être que dans quelques semaines, je donnerai mon avis définitif sur Vikings. Je vais pas revenir à chaque saison sur la série, mais je ferai peut-être un bilan si ça vous intéresse.
Bah on va le voir nous maintenant, si c'est bien à regarder.
Bah, influenceur d'influenceur quoi.
Bah ouais, demain va être annoncée une nouvelle saison.
Un Snyder Cut.
Un spin-off sur les Bretons.
Snyder Cut. Excellent.
Ouais, moi j'aurais aimé vous conseiller ma petite série, puisque moi j'ai regardé le début de VandaVision, la série la suite de l'univers Marvel sur Disney+.
Alors,
on s'ennuie ferme.
Ah.
On a fait le premier, je crois que c'est en 9 épisodes, on a fait le premier tiers, pour l'instant ça pose les bails qu'on avait déjà vus.
Donc 3 épisodes.
Bah oui.
Je te trouve un peu dur, parce qu'il y a quand même beaucoup d'easter eggs qui n'intéressent personne. Et je veux dire, c'est quand même bien que Marvel ait fait l'effort de mettre des easter eggs, parce que ça fait vachement avancer l'histoire, les easter eggs c'est connu. Hein. Mettre des posters, des photos, puis des personnages que personne connaît. Moi j'adore ça. Hein. Ça
non
me
mais
fait
c'est bien,
plaisir.
Ça permet ça permet d'occuper les gens qui ont des sites de théories, les chaînes YouTube, de tout ça et tout. Je
théorie, tu veux dire genre la Terre plate.
Mais ça c'est pas une théorie.
Ouais, j'ai vu un poster dans WandaVision,
oui, c'est
preuve que la Terre est plate.
Ça c'est pas une théorie, c'est la vérité, la réalité. Hein. Je veux dire, ouvrez les yeux quoi. C'est quand même, je veux dire, à un moment donné, on le sait tous. Hein.
Bref, du coup, il y a un côté un peu chiant, en fait. Voilà, on a.
Matt, il s'éclate pas trop en ce moment. C'est pas la joie.
Hein. Ah non, c'est vrai que ta vie est quand même un peu merdique.
Tu vois, non, mais
d'où
surtout,
le,
en fait,
d'où
c'est...
le petit, ça va tout à l'heure.
Ah oui, c'est ça. Pas passé une bonne semaine là.
Ouais, je vais aller te finir l'épisode 3. C'est pour ça. Non mais je pense qu'il y a un problème de rythme de diff. En fait, si le truc était livré en intégralité et que tu peux le voir à ton rythme et foncer dans le truc, c'est cool. Alors que là, en plus, t'es victime de ce truc 25 minutes toutes les semaines. Et à ce rythme-là, bah c'est un peu long. et chiant. Et du coup, en plus, enfin, j'étais parti de ce truc-là en disant, je vois à peu près où ils vont aller et je veux voir comment est-ce qu'on va être déçu de la résolution. Et du coup, s'il faut attendre pour être déçu, tu vois, enfin, je veux dire, c'est bon, j'ai déjà été en couple, je sais comment ça finit. Hein, attendre pour être déçu.
Ah oui, effectivement, ça va pas fort. Ça va pas fort.
Bref.
C'est la mer.
C'est bref, voilà. Voilà. Vivement la suite. Hein, eh ben. Vivement que.
Mais moi, tu vois, j'ai pas vu WandaVision. Et ça me hype à 0%.
Ah non, mais y a rien de hypage. C'est juste, moi, enfin, objectivement, je suis un bon client pour le MCU. J'ai plutôt bien aimé la construction du truc. J'arrive même à excuser les films un peu moyens, si ça apporte un peu sa pierre à l'édifice, tu vois. Je trouve des excuses à tordre, par exemple.
90% des films. Parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sont très moyens. Je suis pas du tout un anti-Marvel, hein. Respirez
c'est
chez
vraiment,
vous, hein. Je veux
c'est
dire, prenez un grand
podcast
bol d'air.
De raseux, quoi. Je veux dire, le MCU, c'est quand même la classe ultime au cinéma.
C'est le meilleur film du monde.
Super-héros. Je veux dire,
si bien que Endgame, c'est le meilleur film. C'est genre, rien ne surpasse Avengers Endgame. Tout le monde le sait.
Attends. C'est sûr. Hein. Plus grosse bagarre de tous les temps de super-héros. Je veux dire, on n'a jamais vu ça au cinéma. 20 ans de continuité résumée en un seul film. C'est du génie, quoi. C'est du génie.
Exactement.
Pas mieux.
On disait quoi ?
Que tu excusais les mauvais films.
Ah oui, c'est ça. Et donc du coup, bah voilà, j'étais plutôt curieux de voir où ça allait, en attendant pas grand-chose. Et en fait, bah, pour l'instant, ça trottine, quoi. Tu vois, c'est. En fait, pour l'instant, je suis au début du concert quand les musiciens sont en train de dire, c'est bon, t'es prêt ? Ouais, ouais. On peut y aller ? Ouais, ouais, on peut y aller, ouais. Ok, et toi, c'est bon, t'es prêt ? Ouais, ouais. Bon, là, c'est bon, on sait que tout le monde est prêt.
Ouais. Ça va ? Ouais. Alors, on y va. Ok.
Ça me rappelle une anecdote que je vous raconterai tout à l'heure, si vous voulez.
Ah oui.
Bon, non, j'avais rien de plus, donc on peut anecdoter tout de suite.
Ah, voilà. Alors, dans le genre préparation de concert, un jour, je vais voir un concert. À l'époque, on pouvait encore sortir de chez nous.
C'était
hein.
Avant, ça.
Bah, souvenez-vous, les enfants. Alors, Chris, qu'est-ce que c'est un concert ?
Alors, un concert, bon. Et donc, j'arrive dans un tout petit bar, hein, où j'avais l'habitude d'aller, où il y avait souvent des groupes assez sympas qui passaient, mais voilà, tu rentres, franchement, c'est un bar où tu rentres à 30 ou 40, tu vois, c'est vraiment toute petite salle, quoi.
C'est interdit.
Et encore, quand il y a du monde. Ah oui, non, bah, aujourd'hui, forcément, on n'y pense plus, mais quand il y a du monde, hein, parce que moi, j'ai été voir des concerts là-dedans, on était 15, quoi, bon. Et en vrai, le type, donc, je balance parce que bon, il se reconnaîtra jamais, il doit pas écouter cette émission. Et là, la semaine prochaine, on a un mail du gars. Ouais, c'est moi, espèce d'enculé, je t'ai reconnu.
Alors, si tu te reconnais dans la description que va faire Chris, sache que tu es notre invité pour le prochain épisode de la Terminade.
Avec madame
et bonne réponse.
À ma place, ouais. En fait, le gaffe, c'était un groupe de cover de Bon Jovi. Alors après, on aime ou on aime pas Bon Jovi, moi je suis pas un fan absolu, mais bon, pourquoi pas, tu sais, enfin, il y a plusieurs groupes qui passent. Et un groupe. Ben voilà, il y a. Et le type, donc, concert devant 30 personnes dans un bar. Et le type nous a fait une demi-heure, et encore je suis gentil, mais au minimum, d'essai de micro. En mode, hey, hey, check, hey, check, check, hey, check. Et donc, il y avait genre un bénévole, un gamin en plus, et qui avait genre 16-17 ans, qui faisait la sono, mais tu vois, genre lui, à part mettre les boutons, tout le monde à zéro, voilà. Et il l'a fait chier pendant une plombe, aller faire des hey, check. Et putain, je te jure,
c'était peut-être ça le concert. C'était peut-être.
Eh oui, mais t'as juste envie de t'en aller.
C'était du scat.
T'as juste envie de t'en aller. Tu dis mais putain, mais une demi-heure FDP, mais ta gueule et chante Bon Jovi, arrête de nous péter les couilles. Putain, je te jure. Bah c'était bien de la merde, en tout cas. Voilà.
Tu nous l'as bien vendu, en fait, ça a l'air. Ouais. Alors du coup, si tu t'es reconnu dans cette description. N'hésite pas à nous rejoindre pour faire le prochain épisode avec nous. Ça va être très sympa. Il va nous faire ça pendant tout l'épisode.
Tout le long de l'émission. Hey, check, hey.
Que tu bois.
Ah, le monde d'avant.
Et donc, WandaVision, c'est lent en fait. C'est ça qui te dérange, c'est que c'est très lent.
Parce que heureusement, Yanda est là pour retourner le thème de l'émission.
WandaVision.
C'est pas une excellente série. S'il en est.
En fait, ça joue dans la façon dont c'est fait. Ça joue avec les codes des vieilles séries télé. Ça fait évidemment des références à Ma Sorcière Bien-Aimée. Enfin, ces trucs-là, tout le monde l'a vu et tout. Et du coup, tu tapes le premier épisode en mode vieille sitcom, série télé un peu à la con des années 40-50. Sur le premier épisode, tu comprends, ça pose l'univers, et puis surtout, c'est diffusé en 4 tiers, par exemple, et quand tu dois repasser dans le monde réel, t'as les bords noirs sur les côtés qui s'écartent, et tu reprends une mise en scène un peu actuelle, moderne, quoi. Bon, si on te fait ça sur le premier épisode, bon bah tu piges. Le deuxième épisode, c'est encore la même chose. Le troisième épisode, on avance un peu dans le temps au fur et à mesure. Tu comprends. Là, il commence à y avoir à la fin du troisième épisode, il commence à y avoir des fissures dans ce monde qui visiblement est un monde parallèle, puisqu'il y a plein de trucs qui ne collent pas avec ce qu'on a pu voir dans d'autres événements de la saga. Donc tu te doutes bien, quoi. Et puis il y a énormément d'éléments qu'on a déjà vu dans des comics plus ou moins récents. J'ai l'impression de me faire spoiler par les Titans que j'avais acheté en avril 92, les fameux Vengeurs de la côte ouest. Enfin, il y a plein de trucs qui semblent sortir de là-dedans, et donc on verra, hein. Je demande à être surpris, mais je en tout cas, j'ai une petite vision de là où ça va et tout, quoi.
D'accord.
En fait, 3 épisodes sur 9 pour planter le décor,
c'est un peu long.
Je trouve ça long. Est-ce qu'on peut passer
à la cuisine?
Et est-ce que tu as vu la série Preacher?
Ah.
Oui, j'ai vu la série
première saison.
J'ai vu la première saison.
Ouais. C'était chiant.
Et est-ce que d'accord, ok.
Il y a en fait.
Ok. Parce que typiquement, Preacher, c'est vraiment une série où la première moitié de la saison 1, c'est beaucoup d'exposition, de mise en place, c'est très 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 long. Ça démarre pas vraiment.
C'est con parce qu'il y a plein d'idées intéressantes, il y a plein de trucs cool, il y a plein de jeux sympas en termes de jeux d'acteurs justement. Là, il y a du niveau. mais globalement, dans la première saison, tu te fais chier tout du long, quoi. À part 2-3 moments où oh, cette scène, elle était trop bien. Mais sinon.
Mais non, mais tu vois, sur Preacher, j'attendais, en plus connaissant la BD, j'attendais un truc un peu grandiose et tout. Je m'attendais à prendre une claquounette, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai été plus tolérant et que je suis allé jusqu'au bout. Sauf que quand il y a eu le break après la première saison et qu'il a fallu reprendre sur la deuxième saison, enfin, j'ai pas eu le courage de me replonger dans ce rythme-là. Et je pense que j'ai pas dû dépasser saison 2, épisode 2, un truc comme ça,
ouais,
quoi.
J'ai eu le même
alors
problème,
que
ouais.
Exactement, mais là, en plus, j'ai un problème de seuil de tolérance sur WandaVision parce que je sais que ça va être bif-bof, globalement. Ça va rien révolutionner, ce sera pas irrévérencieux, ce sera pas la grande claque que tu vas te prendre, ni narrative, ni technique. Donc si ça pouvait aller un peu vite, tu vois, comment ça soit divertissant, ce serait cool.
Non mais en fait, okay. En plus, tu vois, moi je disais je suis pas hypé, j'attends rien, parce qu'en fait, le peu que ça pourrait apporter, on le sait déjà, et genre, tous les mecs qui font des théories le disent déjà, tu vois, en plus, donc ça que j'aime bien, c'est que même le public qui lit pas de comics, il est à fond, ouais, on fait des théories de ouf, ça pourrait apporter les mutants et tout, bah ok, donc deuxième épisode, on sait déjà ce que ça va apporter, puisqu'il y a de fortes chances que, au mieux, ça apporte ça, au pire, ça apporte rien du tout. Du coup, quel est l'intérêt de se taper 9 épisodes? Si ta révélation finale, où tu vas pouvoir mettre plein de hashtags sur Twitter pour dire « Ah, vous voyez, j'avais raison !» Super, merci, bah ça nous fait plaisir de payer Disney+, pour voir 9 épisodes d'un truc dont on connaissait déjà la fin au premier. Enfin, je veux dire, surprends-moi, me vends pas la fin, enfin bref, voilà. Ça ne me donne pas du tout envie, donc je ne regarderai même pas. J'irai juste voir les spoilers quand tout sera fini, pour voir si j'aurais pu écrire WandaVision, et je pense que oui.
D'accord.
Ok.
D'accord, Chris. On a fâché Chris, alors.
Ouais, putain. Bravo, Matt.
Bah, tu vois, parce
merci,
que
hein.
Le mec est quand même intransigeant parce que, tu vois, il refuse d'aller voir le truc dont j'ai parlé, alors que moi, tu vois, Viking, j'ai plutôt envie d'aller voir, tu vois. Je suis quand même prêt à faire un effort, c'est, mais bon, voilà. Après, on va encore dire que c'est moi le méchant de l'histoire, comme dans Cobra Kai, j'imagine.
J'aurais bien te voir faire du karaté.
En plus, t'as un faux air de Johnny Lawrence, je trouve, mais bon. Ça, c'est.
Est-ce que quelqu'un ici a fait un sport de combat?
Ouais, oui. Du judo.
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de toi. Pour vendre des canapés, je sais pas pourquoi, je le sentais bien. Pour vendre les canapés de force.
J'ai fait du karaté en plus.
C'est vrai?
Ouais. Pendant presque 11 ans.
Ah la vache, moi j'ai fait du judo pendant un an, mais j'en avais 6.
Attends, faut que je compte.
Est-ce que du coup ça compte double? Est-ce que les années sont plus longues?
J'avais deux couleurs sur ma ceinture à la fin, donc ouais, ça compte double.
N'empêche, c'est pas impossible parce que moi j'ai l'impression que plus je vieillis, plus le temps passe vite. Donc est-ce que les années comptent double
peut-être.
Quand t'es petit, il y a peut-être un...
Peut-être.
Non, on va parler de Disney+, c'est trop philosophique. T'as fait des sports de bagarre, Chris?
Non, moi je vis systématiquement les yeux, les doigts dans les yeux, dans le doute.
Bah dans les yeux, dans le doute.
Adversaire, parce que souvent on dit dans le doute, voilà. Si. Ouais, écoute, le doute c'est plus dur à viser en général. Ouais. Donc,
moi j'ai le doute qui me gratte yeux. Là en ce moment, donc...
Voilà. Ouais, bah super, le mec il se gratte le doute devant tout le monde, quoi, c'est un scandale. C'était très bizarre. C'est très bizarre ce qui vient de se passer. C'est peut-être toi le frère bizarre de ta fratrie, en fait, Valentin. C'est peut-être pas ton frère qui est bizarre, c'est peut-être
moi,
toi
le
frère bizarre de ton frère
pas
normal.
Comme dans Viking. Pourquoi tu dis ça? T'as des frères bizarres, toi, Matt?
Bon, non, mais vous avez tous des frères bizarres. Moi, j'ai des frères gentils, normaux, mais on a.
Justement, ouais, c'est toi ça. Le frère bizarre, du coup.
C'est moi le frère bizarre de mes frères normaux. Ben, non, non, toi, t'as un frère bizarre. Chris a un frère bizarre. Yanda a un frère bizarre.
Et OMC a Aou bizarre.
Aou bizarre. Comment t'as pensé à ça?
Je sais pas. Aou bizarre, quoi.
L'esprit est.
L'esprit est vif. Ouais.
L'esprit est bloqué en 96,
oh,
surtout.
Oh oui. La Rousseau, hein, de tout ça. Toi-même, tu sais.
Les deux minutes du
d'ailleurs,
peuple.
D'ailleurs, t'as dit ça cartonne. J'ai failli faire une référence à Eric Bana, mais je me suis dit que c'était trop obscur.
Non, Philippe
Dana. Philippe Dana. Eric Bana, c'est qui? Eric Bana, c'est.
Eric Bana, c'est Hulk.
Ah oui, c'est un fail. C'est un magnifique fail. Philippe Dana, absolument. Philippe Dana, ça cartoon.
Excellent. Et oui, le dimanche soir, hein, le dimanche soir avant de retourner à l'école de la vie.
Nos meilleurs dimanches soirs.
Sur Canal Plus, ouais. En clair.
Tu savais, t'avais le seum de Tom et Jerry. Tu sais que oui. Si avait Tom et Jerry, c'était la fin de sa cartoon. Oui. Et que du coup, c'était la fin du week-end et que fallait être couché.
Et plus tard, j'ai eu ce même seum avec les nouvelles aventures de Lucky Luke, doublé par Antoine Decaune, le dimanche soir sur France 3. Effectivement, quand tu avais le logo Xylem qui apparaissait, je me disais, putain, ça y est. Le week-end est fini et la semaine va reprendre et j'ai un devoir que j'ai pas fini, j'ai pas fini de faire le jeu à zéro. Enfin bon, bref. La belle vie, quoi.
Et oui. Et avant, on s'était baigné, là.
Et du coup, quand il avait zéro, il disait c'est de la faute à
Eric
Bana.
Et personne ne comprenait. Mais si, Eric Bana, de sa cartonne.
C'était en clair sur Canal, en plus. Tout le monde pouvait y avoir accès.
Et oui.
Putain, c'était le bon temps. Ouais. Souvenez-vous.
Et puis après,
la belle vie.
Après, ça faisait
le monde d'avant, quoi.
Du coup, tu le regardais avec ton frère, Valentin?
Bah non, parce que mon frère n'était pas encore né.
Comment je tombais sur les rails à chaque
frère,
fois.
Mon frère, il est né après. Mon frère, il est né en 1997. Donc, il n'a pas connu sa cartoon. Ouais, on a 7 ans de différence.
Oh putain, hein. Ah ouais.
Et oui.
Comme moi et mon frère, dis donc, c'est ouf. Est-ce que c'est un truc de frère bizarre d'avoir 7 ans de différence avec leur
mais
frère?
Je ne trouve pas mon frère peut-être. Particulièrement bizarre. Il a un humour particulier, on va dire.
Parce que tu l'es un peu aussi.
Mais oui, mais... c'est ça. Bah, il a pris exemple, quoi. Donc voilà. Non, mais. Pourquoi il est bizarre? Qu'est-ce qui se passe?
Quand on a commencé à préparer des sujets et tout, vous avez dit, ah bah oui, moi aussi mon frère il est bizarre, Donc j'ai noté, on a des frères bizarres. Et maintenant qu'on est sur scène, la lumière, les paillettes, les spectateurs, tout le monde dit, ah bah non, Matt, pourquoi tu dis ça et tout? Bah écoute, moi je dis ça parce que vous avez voulu me foutre dans la merde et que j'ai suivi le conducteur, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. On va aller se laver les mains et puis on fera un meilleur prochain épisode. Y a pas de problème.
C'est l'épisode de l'anarchie ce soir. Non, bah mon frère, vous pouvez. Si alors, si vous voulez aller, si vous voulez jeter un œil sur Twitter, vous tapez out of context ce mec tout attaché, out of context ce CE mec MEC et vous verrez que mon frère n'est pas du tout bizarre. Je vois pas du tout ce qui vous fait dire ça. Il a un humour qui moi me fait énormément rire, mais effectivement, ça ne fait pas
et
rire
du coup,
grand monde.
Out of context ce mec, ça te fait rire?
À moi beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon frère qui fait de la merde et il met ça sur Twitter et moi je ris beaucoup, beaucoup.
C'est de l'humour absurde, on est d'accord. C'est un clip de 12 secondes avec un mec qui ouvre une porte de micro-ondes,
exactement.
Qui ferme une porte de micro-ondes et tu rigoles.
Exactement ça. Et moi, ça me fait énormément rire, tout à fait. On est d'accord.
Putain, mais tu dois t'éclater dans la vie, quoi.
Ah, mais oui.
Quand tu fais les courses, il y a quelqu'un qui prend de la margarine, qui le met dans son panier. T'avales derrière, qu'on peut plus, quoi.
Bah, on m'arrête souvent. Ah, ouais, hein, j'ai souvent fini au poste à cause de ça parce que c'est. Oh, regarde, il a dit bonjour. Prenez la drogue, monsieur. Non, absolument pas. J'aime bien l'humour absurde. Voilà.
Ouais, donc c'est toi le frère bizarre
oui,
de ton frère normal,
sans doute,
peut-être.
Sans doute. C'est fort probableux.
On connaît le passé de réalisateur du frère de Chris, hein, évidemment. On a déjà
moi, comme j'ai l'habitude de le dire,
de
ses
films inclassables.
Mon frère, c'est un fils de pute, hein, très clairement. Je veux dire, voilà, c'est notre blague à nous deux, hein. Et autant dire que ça fait beaucoup rire ma mère, elle est habituée.
ça égaye nos petits Noël.
Écoute, Noël, j'ai pas de chute à cette histoire de Noël. Donc mon frère, oui, qui fait effectivement du cinéma indépendant, on peut appeler ça comme ça, hein, du cinéma à tendance indépendante, hein, voilà. Sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle Tilt Trip. Bon, alors plus vraiment sur sa chaîne YouTube, puisque YouTube le censure. Après, il a fait une chaîne Vimeo. Bon, bah Vimeo l'a censuré. Le mec, on est au stade de mettre ses films sur Google Drive. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre, hein? Voilà.
Et ça marche, du coup, sur Google Drive.
Ça cartonne.
C'est un succès.
Ça cartonne. D'ailleurs, il paraît qu'il va réaliser la troisième saison de Lupin.
C'est bon ça.
Il va faire des super cascades. C'est quoi son dernier film par exemple?
Le dernier court-métrage qu'il a fait, c'est sur un concours. Alors, mais je l'ai déjà raconté dans l'émission.
Ouais, le concours de court-métrage, on en a déjà parlé.
Ah oui, bah du coup, je vais pas vous dire, écoutez l'épisode. Matt insérera ici le numéro de l'épisode avec une voix digitalisée.
du futur. Putain, faut que je réécoute les autres épisodes alors.
C'est ça le plus dur. C'est de réécouter tout ça. Sinon, avant ça, il a fait un vrai long métrage qui s'appelait Une fin dans la nuit, qui était en fait plus ou moins une clôture d'une série de courts-métrages qu'il avait commencé il y a des années avec ses potes.
C'est pour ça que j'ai pas tout compris. Et,
non, même si t'as vu les autres, tu comprends pas.
Ah bon, d'accord.
Et donc, oui, qui était une sorte de dommage un peu à Evil Dead, un peu à plein de films d'horreur comme ça. Voilà, il a grandi nourri par ce cinéma-là, parce que j'ai le souvenir de l'avoir vu tout petit déjà devant Evil Dead 2 de Sam Raimi. Donc, je pense qu'il
normal.
Voilà, il est complètement traumatisé, ce garçon. Donc, là, il reproduit ce qu'il a vu, quoi. Hein.
Et dans la vie, il est sympa ou il est comment ça marche? Est-ce qu'il fait peur un peu comment?
Non, pas du tout. Dans la vie, c'est quelqu'un de tout à fait charmant.
À ton image, en fait.
Mon frère. Excuse-moi, je ne sais pas où va cette émission, il faut que je m'éclaircisse la voix. hey, check.
Nous sommes actuellement dans le ventre mou de cet épisode. Bonsoir.
Ce soir, dans le ventre mou, nous recevons Jean-Michel qui a écrit extraordinaire sur
Bienvenue dans le ventre mou.
Podcast culturel.
C'est un podcast dans le podcast. Putain, mais faut qu'on développe ça.
Ouais, j'avoue.
Bah, il y a bien Itchy et Scratchy dans les Simpsons, c'est pareil.
C'est vrai.
Mais c'était bien. Moi, ça me faisait rire, Itchy et Scratchy.
Plus que les Simpsons, des fois.
Oui.
Ouais. Plus que les Simpsons de maintenant.
Oh oui.
Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Oui, mon frère, effectivement, fait des courts-métrages. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Tilt Trip. Je vous encourage à aller la découvrir si vous avez le cœur bien accroché. Et sinon, bah non, passez votre chemin. Allez voir Lupin sur Netflix. C'est sûrement votre truc.
Bon, alors, vous m'avez survendu des frères bizarres et des trucs à raconter. Est-ce que Yanda va sauver la partie de cette émission? La P2.
Moi, j'ai foutu mon frère au tribunal.
T'as foutu quoi?
J'ai foutu mon frère au tribunal.
Ah bah voilà, là on va
commencer par ça.
On sort du ventre mou là. Là on arrive sur des bons gros abdos de bâtard. Ok.
Ouais, je vous laissais un petit peu voilà, mais ouais, pour usurpation d'identité.
De la tienne du coup, de ton identité.
De la mienne du coup, ouais, de la mienne du coup, tout à fait. En l'occurrence.
Est-ce que c'est lui qui, est-ce que il a fait des épisodes de ce podcast avec nous et on s'en est pas rendu compte, c'est ça? Qu'est-ce que
non,
d'accord.
Enfin, je ne crois pas en tout cas, mais non.
C'est
non.
Lui qui était là dans l'épisode avec les invités en fait, et du coup.
C'est ça. Et c'est pour ça que j'étais pas là et que je m'en souviens pas. Putain, merde. C'est ça en fait. Non, en fait, ça a commencé parce qu'on, alors, on a bossé ensemble pendant quelques années dans le meuble, notamment. Et du coup, après, quand moi j'ai arrêté de bosser, donc du coup je suis parti sur la région parisienne. Lui a continué de bosser dans le meuble et j'ai appris un été pendant les vacances d'été en rentrant sur Bordeaux que j'avais perdu plusieurs points sur mon permis pour des infractions à des endroits où je n'étais pas.
Quoi ?
Donc déjà, je me dis c'est chelou. Je vais voir mon frère qui me dit bah ouais, en fait, j'ai filé ton blaze pendant des contrôles, donc voilà. Mais bon, t'inquiète pas, je peux te payer. Mon frère qui est 2 ans plus jeune que moi.
Du coup, comment il s'appelle? Parce que toi, c'est Mister Yanda, lui, c'est Kid Yanda. Comment ça marche? C'est
je sais pas. Yes. Non, il est pas affilié.
Il n'a pas de lien affilié.
Ouais, non. Et du coup, donc il me dit mais t'inquiète pas, je te paye le stage pour aller récupérer les points. Et donc me voilà partir faire un stage pour récupérer des points que je n'avais pas perdus. donc j'ai fait le stage d'un jour ou deux, je crois que c'est 2 jours pour récupérer des points. Je vous passe les détails de ouais, c'était chiant.
Ah ouais,
c'était chiant. Déjà j'avais mis un bon soufflon comme on dit. Mais du coup, j'étais parti faire le stage pour pas perdre mes points parce que ça me faisait quand même bien chier. Donc c'était très drôle puisque le jour du stage, on vous demande comment t'as fait, enfin voilà, l'infraction que vous avez commise pour perdre vos points, etc. Donc j'ai raconté en fait l'infraction qu'avait fait mon frère en disant oui, c'est moi qui l'ai fait, enfin voilà, bon bref.
Là les gens ils te jugent sévèrement.
Ouais, c'est ça. Déjà, tu vois, tu dis ah ouais, d'accord, ok. Bref, et bon, de là, je récupère mes points, machin, patin couffin, je repars sur Paris. Bref, c'était un an ou deux après. On redescend du coup sur Bordeaux à titre définitif.
Val, tu pourrais checker. C'était un an ou deux après. Tu peux fact-checker, s'il te plaît.
Ouais, ok, je ferai ça tout de suite. C'est parti.
Et du coup, je me retrouve à apprendre que, en fait, j'ai plus de permis.
Plus c'était, du tout. C'était un an et demi après.
Ah voilà, c'est pour ça que j'avais plus.
C'était au mois de mars.
Yes. En plus, tu sais quoi, c'est pas impossible parce que je sais,
j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux là.
Donc oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'apprends que j'ai plus de permis en fait. Donc je ne savais pas et j'apprends que ça fait genre
c'est chaud.
J'apprends que ça fait mais que ça fait genre 6 mois en fait que je roule sans permis, sans le savoir. mais du coup voilà, j'apprends que je n'ai plus de permis. Donc là, je commence à me renseigner un petit peu sur les infractions commises.
Attends, tu as appris ça comment du coup? J'ai pas compris.
Sur Wikipédia.
Alors en fait, je l'ai.
Ah oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Je l'ai appris parce que j'ai reçu un courrier demandant de me présenter au commissariat pour ramener mon permis. Mmh. Et de là, Madame Yanda a téléphoné à la préfecture ou au commissariat, je sais plus, et ils lui ont dit oui, ça fait 6 mois.
Il y a quelqu'un à ma place, à la place de mon mari.
Ça fait 6 mois que votre mari, il a plus de permis, qu'il est censé nous le ramener et que on n'a pas de nouvelles quoi. Ah bon, d'accord, ok. Donc je me renseigne sur les infractions, je vois que c'est des infractions qui correspondent pas du tout à des endroits où je pouvais être à des moments, etc. Donc ok, je fais un petit peu le tour de mes connaissances à ce moment-là et je me retourne notamment vers mon frère en lui disant je crois que là t'as déconné mais sale. Et au début il me dit ah non c'est pas moi.
Ah, il essaye de baratiner un baratineur,
ouais.
Dis donc.
D'ailleurs assis sur un magnifique canapé à cet instant.
Il me dit franchement je comprends pas, c'est pas moi, je vois pas qui ça peut être, mais en tout cas c'est sûr c'est pas moi, je te jure c'est pas moi et tout machin. Ok, quelques coups de pression et quelques jours passent et puis finalement il me dit oui ben si en fait c'est moi, mais j'ai pas osé te le dire, j'avais peur que tu pètes un câble. Ben c'est sûr que d'avoir attendu que je sois vraiment permis annulé, c'est bien parce que voilà. Et en fait, ça a fini que je l'ai foutu au tribunal pour pouvoir récupérer mon permis, en fait, puisque c'était la seule façon de faire annuler cette annulation. Il fallait que je le foute au tribunal. Donc, je l'ai foutu au tribunal.
Par la peau des fesses.
Et il a pris une bonne leçon de morale par la juge ou le juge, parce que j'étais pas à l'audience le jour de l'audience. Il a pas eu de prison, il a eu du sursis je crois, mais il a pas eu de prison ferme. Mais du coup voilà, et j'ai pu récupérer comme ça au final mon permis. Mais ça a été long, très long. Et puis c'était chiant quoi, parce que voilà, je me retrouve sans permis alors que j'avais rien fait pour le coup, en tout cas pas suffisamment d'infractions pour justifier une perte de permis.
Et tu continuais de conduire quand même ou tu t'es...
Ah oui. Alors à partir du moment où j'ai su que mon permis a été annulé, non du coup.
Ouais.
Parce que c'était un peu relou de devoir expliquer en fait je suis en procédure.
En fait c'est mon frère, c'est pas moi, c'est mon frère.
c'est ça. Alors, je vais vous donner le nom et prénom et date de naissance de mon frère. Du coup, je vais me faire passer pour lui puisque lui a encore son permis. Mais donc je conduisais pas et ça avait d'ailleurs été très chiant à ce moment-là puisque c'était tombé au moment de la naissance de ma fille. Donc il fallait faire pas mal de trajets en voiture, etc. Et du coup, on n'avait plus qu'un seul permis, donc c'était pas simple. Mais au-delà de ça, toute la procédure en plus administrative, c'est relou quoi.
Mais il y a un truc que j'ai peut-être pas compris. Alors, pourquoi il disait que c'était toi, il avait... Attends, comment il s'y prenait pour se faire passer pour toi?
Il l'imitait.
C'est relativement...
Il faisait comme ça, il se remontait les pommettes, il disait « Ouais, c'est moi, je suis
Yanda !»« C'est toi, Fantomas. Je te reconnais !»
En fait, c'est pas foncièrement très très compliqué, dans le sens où, si tu te fais contrôler, tu dis que t'as pas tes papiers, et eux, ils demandent pour vérifier dans le fichier, nom, prénom, date de naissance, adresse,
donc il
donnait toutes mes infos.
Donc il donnait ton nom, enfin c'était un acte, je veux dire un acte.
Ah mais bien sûr. Ah oui, c'était délibéré.
Délibéré, merci.
Ah oui,
mais non, mais le mec, il connaît ton nom aussi, t'es con. Pourquoi tu donnes, tu dis pas ça à tout le monde?
Bah attends. Puis c'est surtout qu'il connaît ma date de naissance.
Bah ouais, non, mais t'abuses.
Il avait pas du tout de permis.
À ce moment-là, je sais plus. En tout cas, il avait plus assez, très peu de points.
Oh la vache.
Peut-être même qu'il l'avait plus. Ouais, mais... je sais plus exactement parce que ça commence à faire quelques années. C'est mais en tout cas, oui, c'est pour ça qu'il avait filé mon blaze à ce moment-là.
D'accord.
Et du coup, bah après, quand il m'avait expliqué, il m'a dit ouais, je voulais te le dire, et puis après j'ai oublié, et puis après le temps est passé.
j'ai oublié. Ouais,
et du coup, voilà, je suis dans la merde. Voilà, c'est ça.
Okay.
Donc ouais, ça avait été un bon moment de Nutella. Usurpation d'identité.
Et vous viviez en...
premier coup le stage.
Vous viviez ensemble ou vous étiez déjà installés?
Non, à ce moment-là, on vivait plus ensemble. À ce moment-là, moi j'étais parti et je vivais ma vie.
Ma vie d'homme.
Non, lui, il était encore.
Ma vie de vrai homme.
C'est ça. Non, lui, il était encore chez ma mère.
Tu sais, le mec qui te fait des plans de bâtard, genre, tu veux que je fasse ton tour de vaisselle, Yanda, ce soir? Non, mais ça me dérange pas, tu sais.
Non, ça avait été bien relou. Ça avait été bien chiant. Déjà, le stage, c'était relou. Franchement, un stage de perte de points.
Non, mais déjà, le stage, s'il y allait, ça me rend ouf, quoi.
Les vieux ivrognes qui sont là parce qu'ils se sont fait contrôler, après être rentré après le repas de chasse, ça va, j'ai bu 3 verres, c'est positif, ce délire.
C'est quoi. Mon frère, enculé.
je suis en état de conduire, monsieur l'agent, je veux dire, c'est bon, quoi. Donc voilà, déjà, ça avait été funky. Et puis alors après, quand j'apprends, un an et demi après, que j'ai plus de permis, et que ça fait 6 mois et que je le savais pas, j'étais, ah d'accord, ok, c'est c'était quand même un peu embêtant, quand même.
Et que t'es marié dans un autre pays? Et qu'ils arrivent, ils t'attendent à la douane.
Ouais. C'est
au moment où il a dû aller faire son service militaire en Suisse qu'il a dit, là, il y a un truc. Il y a quelque chose de chelou.
Putain.
Mais bon.
Non, ça va, je suis passé pile à l'année de la réforme, j'ai pas fait le service militaire, moi. Je suis né l'année de la réforme.
Bien. Ah, mais ouais. Oui, du coup, ça veut dire.
T'as même pas fait de journée d'appel?
Ici présent.
Si, j'ai fait la journée d'appel. Ah, si, la journée d'appel.
Ah, la JAPD! Mais qui n'aime pas la JAPD?
Sur la défense, bien évidemment.
Mais oui.
Où il faut répondre au QCM sur le programme télé.
Matt, t'as fait ton service militaire, toi?
Non, j'ai fait le. Pareil, j'ai fait le QCM sur le programme télé. Ouais. Je suis allé voir des films. Ouais. On m'a montré 4 films. Pourquoi se défendre? Comment se défendre? Avec quoi se défendre? Et contre qui se défendre? 4 super films. Et t'as un quiz le matin sur le programme télé entre deux films. Entre le chapitre 2 et le chapitre 3, tu vas bouffer. Et à la cantine des militaires, tu manges des yoko et tout, c'est cool. Et entre le chapitre 3 et le chapitre 4, tu as un quiz random où du coup c'est distribué un peu au hasard, ça sert à faire des statistiques. On n'a pas tous le programme télé à ce moment-là. Et j'ai eu besoin d'être rassuré pendant longtemps sur le fait que c'était un quiz random parce que moi, celui que j'avais eu à ce moment-là, c'était des sortes d'ombres et il fallait dire ce que c'était. Alors, c'est un sapin, c'est un vélo ou c'est un ours? En fait, non, c'est un sapin, là. Ça se voit, ça ressemble au petit sapin qu'on accroche au rétro, quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'ils m'ont filé ça? Parce que j'ai à tel point raté le quiz sur le programme télé le matin qu'on m'a filé le truc de reconnaître les ombres, le truc
le
niveau
pire, c'est pour ceux qu'ils appellent. Parce que genre, il y en a qui ont des scores tellement mauvais, ils les convoquent, tu vois, après. Genre, ils venaient les chercher dans la salle, machin.
Mais vous avez fait exprès, quand
tu
même.
Tu veux venir? Et là, tu dis, putain, machin. Il y a 3 mots qui existent pas. Il y a genre, il y a 3 mots, il y en a un qui existe pas. Genre, lapin, chaise, et le mec, il a coché lapin, quoi. Je veux dire, quand même, hein. C'est dur.
Mais en fait, ces trucs-là étaient hyper intéressants parce que ça servait aussi à repérer, l'analphabétisme, quand il y avait la vraie
chez
armée,
les militaires,
la vraie...
tu veux dire
entre autres, mais ça permettait de faire des statistiques aussi de l'INSEE, ça permettait de faire les courbes de QI de la population, ce genre de choses, ce qui permet de voir que la majorité des gens étaient plutôt à 8 sur 20, hein, que quand t'arrivais à 13 sur 20, il y avait plus personne, en fait.
Bah, c'est d'ailleurs dans la salle, ils avaient fait une courbe sur le mur, et en fait le mec s'est arrêté quand il a atteint la plinthe, il pouvait pas descendre plus bas, donc la courbe va pas après.
Donc non, j'ai fait ma journée d'appel, Valentin. Une réponse beaucoup trop longue pour une question formulée.
Moi, la JAPD, j'ai découvert que je venais d'une famille de lâches. Parce que genre, t'sais, t'as un militaire qui arrive comme ça. Puis alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des personnes de leur famille qui ont fait la guerre ou qui sont morts à la guerre? Et alors toi, t'es là, moi non, pas du tout. Et j'en vois plein qui lèvent la main. Ouais, moi mon grand-père, ouais, moi mon oncle et tout. Non, moi personne. Parce qu'en fait, au niveau des tranches d'âge, soit ils étaient trop jeunes,
des tranchées.
Non, vraiment des tranches d'âge. Soit ils étaient trop jeunes, soit ils étaient trop vieux en fait pour aller faire les guerres mondiales. Et du coup, je n'ai personne dans ma famille proche. Alors, je crois qu'un frère de ma grand-mère a dû faire l'Algérie, il me semble, mais tu vois, c'est pas quelqu'un qui est proche que je côtoyais quand, de son vivant beaucoup.
Ça, et... ça s'appelait Jean-Marie, non?
Non, Dieu merci. Et la seule exception que je connaisse de fait de guerre dans ma famille, c'est un oncle de ma grand-mère qui a été donc capturé deux fois et s'est évadé deux fois. Alors à part l'envie de se barrer, tu vois, et de pas faire la guerre, c'est pas vraiment un fait d'arme, tu vois, extraordinaire. Il a libéré personne, il a rien sauvé. Le mec, il a juste dit, hey, faut que je me casse, les gars. Je sais qu'il a sauté d'un train en marche. Voilà, c'est la seule anecdote que je connais de fait de guerre dans ma famille. Ouf. C'est des gens qui se sauvent. Hey, voilà. Donc
tu connais l'histoire du mec qui saute du train en marche. Ben, regarde.
C'est mon grand-père.
C'est possible. On est une famille de rigolos, donc ça m'étonnerait pas.
Mais une famille voilà, de déglingos, mais
j'ai pas de mort par fait de guerre dans ma famille proche, mes grands-pères, même mes arrière-grands-pères, pas du tout. Donc je me suis dit bon, bah je dois vraiment venir d'une famille de planqués, voilà. Et je me suis senti honteux par rapport à ma patrie. J'ai dit la France, j'étais la main sur le cœur face à ce monsieur. J'ai dit, ah, la France, je lui dois tout. Est-ce qu'on peut passer à la suite?
Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi quand on s'est posé la question sur est-ce que vous avez fait l'armée, le regard accusateur de Valentin s'est au hasard porté sur moi en fait.
Est-ce que t'es vieux?
Bah, c'est ça, parce que avais quelques années de plus que Monsieur Yanda ici présent. Mais si peu, c'est pour ça que j'ai eu un doute et que je t'ai posé la question.
Ouais, c'est ça. Ouais. On réglera ça, toi et moi,
dans l'octogone
après l'émission, bien sûr.
Il me semble qu'en fait, je crois que l'année vraiment de séparation entre ceux qui étaient obligés et ceux qui n'étaient pas obligés, ça doit être 1980. Donc je pense que Matt, tu es tout juste sur la, sans révéler ton âge aux gens qui nous écoutent. Je pense que tu es tout
57
juste
ans.
sur la brèche.
Mais non, je m'en suis tiré car j'avais du retard au lycée, ce qui m'a permis de tac 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 d'échapper un peu au truc. C'était bien.
T'as joué la montre pas
et
mal.
Et c'était une bonne affaire, ce truc-là. Parce que moi, j'étais à Nanterre. T'avais un bon pour aller, genre, alors, je sais pas comment on appelle ça, on va dire, à la caserne, où fallait faire le truc. Et t'avais un bon de voyage.
Bah, à la casam. Ouais.
Qui était de.
C'est la formule.
Et du coup, le bon de voyage était genre conséquent, tu vois. C'était peut-être 20-30 euros, un truc comme ça. Et moi, j'avais juste un ticket de RER à acheter, donc en fait, ça allait, quoi. Donc, ça m'a fait ma journée, j'ai pu acheter des BD à vrai. Donc, c'était bien. Et j'ai gardé un critérium. À la fin, il y a un militaire qui est moitié la larme à l'œil, m'a dit, le critérium avec lequel vous avez rempli le questionnaire, vous pouvez le garder, c'est un cadeau de la République.
C'est vrai ou pas?
Je te jure.
Il t'a vraiment dit ça?
Formidable.
La tristesse.
C'était très bien.
Pardon, respect à tous nos compatriotes militaires.
En vrai, tu vois, le mec qui est vraiment militaire de carrière, qui l'a fait par conviction, qui y croit et tout, bon, bah, à partir du moment où c'est pas pour faire du coup d'état, tu vois, c'est une conviction qui me paraît tout à fait à peu près aussi respectable que fan de comics, tu vois, si c'est vraiment genre défendre la nation,
bien,
les valeurs du truc.
Comme Francis Lalanne.
Ah oui, c'est vrai, mais oui.
Le coup d'état musical, ouais. Avec une arme de torture psychologique.
Pauvre garçon.
Mais blague à part, parce que il a vraiment tenté un coup d'état aujourd'hui. Oui. Enfin,
Francis Lalanne.
Il a appelé l'armée.
Il a annoncé
sur son
Twitter, je sais pas sur son Twitter ou dans un article. Non, dans un article, dans un journal.
Il appelle à renverser, ouais.
Il appelle à renverser Macron, ouais.
En voiture, tu veux dire?
En vrai, personne, exactement. Personne j'étais en train d'élaborer la même. Bien joué, bravo.
Qu'est-ce qu'on rit dans cette émission, vraiment?
Eh ben, ouais.
Bon, comme j'ai rien prévu pour la suite et que je sais que vous savez tout, j'ai besoin de savoir quelle offre il faut prendre pour. On prend quelle box pour passer à la fibre? Parce que j'ai bien envie de passer à la fibre, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chez qui? On prend quelle box?
La qualité des sujets.
Tu vas chez Orange, j'ai un lien d'affiliation. Tu peux aller chez Soch si tu veux.
Vous êtes plutôt ça, Pepsi faire... ou Coca-Cola? Parce que je me demandais. Je me disais, bon. J'aime bien le Pepsi, café. Par exemple. Bon.
C'est vrai qu'il est temps qu'on sorte de cette crise sanitaire pour qu'on ait de nouvelles choses à raconter. Parce qu'effectivement, là, on sent qu'on arrive au bout du bout.
Ça tombe bien, le troisième confinement arrive. Donc,
ouais.
C'est parfait. C'est clair.
Ça va être nickel.
Bon, en vrai, j'ai toujours pas la fibre. Donc,
Moi non plus. Voilà. C'est d'ailleurs le drame.
La fibre, c'est tellement bien. Ça change.
J'imagine, ouais.
Bon, ça devrait arriver cette année, hein, d'après d'après mes sources, qui sont.
Moi, ça fait 2 ans.
Oui, parce que toi, t'as aidé au développement. Enfin, dans, t'as aidé au développement.
Alors, bah moi, alors bon, je voudrais avec pas me la péter, mais c'est vrai que j'ai un peu inventé la fibre. Bon, c'est vrai, oui. C'est vrai.
Non, je croyais que c'était les fibres, toi. Le truc qui.
Alors, oui, le truc qui fait faire caca. Et bien, en fait, du coup, j'ai pris ces fibres, et puis en les séparant, il est resté une fibre. Et j'ai dit, tiens, si on s'en servait pour faire passer le web. Et voilà. C'est comme ça que j'ai créé ça.
J'ai branché ça sur la prise de courant, et tout puis, à fait. Voilà, quoi, c'était parti.
J'ai mis ça dans le 220, j'ai dit, tiens, Maurice, glisse-moi la fibre, là, dans le 220, là, alors si ça marche, et hop, tiens, paf, c'était
et
parti.
Hop là.
Ah, bah, je peux te dire que c'est autre chose que le Minitel. Hein.
Ouais.
Minitel
36-15 du là.
Ouais, moi j'en veux de la fibre, il y en a dans ma rue. Moi du coup je veux télécharger des trucs plus vite. Et du coup j'ai regardé les offres et on ne sait lequel choisir, hein. Bon.
Mais t'es éligible, ouais, t'es éligible parce que c'est pas parce qu'elle est dans ta rue que t'es éligible. Hein.
Je suis éligible, Coco, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive là?
Très bien, eh bien je vous invite cordialement à aller vous faire cuire le cul et à me laisser dans mon ADSL de 3 mégas.
À 3 mégas, oui, c'est dur.
Ah ouais, c'est non, c'est
ah
peu.
Oui, c'est dur, parce que même moi j'ai plus, et pourtant, ouais. Pourtant j'ai plus.
Moi je passe par la 4G du coup. Du coup, j'ai fait la.
Il y
fait
a des endroits où c'est mieux.
Ouais. J'ai pris un forfait avec beaucoup de data en 4G.
Non, mais...
quand j'ai besoin d'internet, je fais un partage de connexion avec mon mobile en 4G et j'ai un meilleur débit que par ma ligne internet.
On dirait une explication de Clément le No Life. Et là, je branche ma clé USB sur mon PC qui est accordée à mon lecteur MP3.
Et
ah non, les moches.
Une grande lame.
Je la bloque.
Là, on fait une grande lame. Et je peux te dire que les parties de Counter-Strike, ça y va. Hein.
Qui se souvient de Clément le No Life?
C'est bon. Hein. J'ai pas connu.
Ça, si, c'était quoi?
C'est légendaire.
2015.
Mais comment tu peux faire ça, Valentin? Je te dis, j'ai pas
2005,
connu. Comment
pardon.
Tu peux dire si? J'ai pas connu, j'ai pas connu.
Si.
Mais non.
Mais si, t'as connu, Matt. Putain. Je vois sur Wikipédia à l'instant même. Matt a connu.
Bon, je suis en train voilà. de tac, je suis en train de l'écrire.
On peut plus faire ça sur Wikipédia.
Mais ouais, putain, ouais. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se dire si on reste confiné, quoi.
On va lire, on va faire des épisodes de podcast où on lit.
Ouais. On va faire des
mais
livres audio.
Dans notre coin, quoi.
L'annuaire en livre audio. C'est intéressant.
Non,
tu sais, tu cherches un numéro, tu juste tiens.
Madame Elulin, alors.
L'annuaire en livre audio sur cassette. Tu rembobines jusqu'au D.
Tu mets un petit timecode sur la cassette. À l'ancienne, quoi.
Au crayon?
Non, en vrai, moi, les concerts, ça manque. Tu vois, là, franchement, quand je vais pouvoir me refaire un vrai bon gros concert, j'aime bien faire, je vois pas mal de concerts en général dans l'année, et des gros trucs, et ça commence à me manquer un peu. Ça me fait un peu yesh, de pas pouvoir
yesh.
Ouais, ça fait un an, très exactement, que je n'ai pas pu aller voir un concert, parce que le dernier concert que j'ai vu, c'était en janvier 2020. Et ça me pète un peu les couilles.
C'était quoi?
C'était Sum 41. Tu veux que je te raconte? Alors, anecdote, puisqu'on n'a rien à se dire, je vais vous raconter une anecdote. En 2019, nous allons au Hellfest. Et donc au Hellfest, il y a plusieurs scènes par genre de musique. Pas une scène par groupe, évidemment. Et donc, il y a une scène qui est plutôt orientée punk, un peu hardcore, tout ça. Et le un des soirs, il y a Sum 41 qui passe en dernier, genre à 1h du matin. Donc on avait pris un gîte qui était quand même à 1h du festival, ça, donc c'était un peu chiant. Et en plus, l'accès à cette scène qui s'appelait la Warzone est un peu pour...
Ah, comme dans Call of.
Et un peu pourrave dans le sens où elle est un peu enclavée, enfin tu t'en retrouves vite tassé avec les gens, tu vois pas très bien, elle est un peu décalée par rapport au reste du festival. Et du coup, un peu la flemme de rester, et mais ma chère et tendre voulait absolument voir Sum 41. Donc je dis à mon frère, je dis est-ce que t'es chaud.
De la faute des femmes, tiens.
Non, pas du tout. Ben non, justement, je écoute la fin de cette histoire. Et mon frère me dit non, mais la Warzone, on était voir un concert hier soir, c'est pas terrible, on voit pas très bien et tout. Je dis bon, on va pas rester jusqu'à 2h du matin pour être déçu. On ne va pas voir Sum 41 au Hellfest, mais par contre, c'est promis, quand il passe quelque part en France, on ira voir Sum 41. Et il s'avère donc qu'en janvier 2020, Sum 41 est passé à ce qu'on appelait avant le Zénith et qui doit s'appeler maintenant l'Accord Hotel Arena, ou j'en sais trop rien, à Paris.
Ah, oui.
Et nous avons donc été voir Sum 41 et c'était moi je suis pas un fan absolu, voilà, bon, c'est du punk rock américain qui s'écoute bien voilà quand t'es au lycée, tu vois. Et franchement, en live, je m'attendais à ce que les mecs aient un peu vieilli et que ça soit un peu has-been, tout ça, et ça passe très très bien, et c'était vraiment pas mal. Voilà, c'est pas forcément ce que j'irais voir en courant au déconfinement, mais c'était
quelle
pas
anecdote.
Mal.
Mais si, c'est intéressant. Il aurait pu quand même aller sur la Warzone voir Sum 41 gratuit. Il a préféré faire le déplacement et aller à la Corotel Arena pour voir Sum 41 payant. C'est quand même intéressant comme truc.
Non, mais alors, il faut quand même comprendre une chose. Le Hellfest, techniquement, les 3 jours, c'est 10h, 2h du matin. Tu ne peux pas aller tout voir, en fait. Parce que, et en plus, quand tu te rajoutes une heure de route à une heure de route au retour.
Si t'aimes vraiment la musique, tu fais un effort quand même.
Non, sincèrement, écoute, c'est que j'aime pas vraiment la musique, mais sincèrement, moi, personnellement, je n'irai pas me taper du 10h, 2h du matin, parce qu'en fait, ça me saoule, et je vais voir ce que j'ai vraiment envie de voir, tu vois, sur des certaines...
Mais tu fais pas d'effort aussi.
Non,
tu fais pas, il faut savoir faire preuve d'abnégation.
Aucun effort, effort. J'en suis tout à fait... je le revendique, monsieur, je ne fais pas d'effort, voilà.
Ça, c'est vraiment un truc des mecs, quoi. Les mecs, jamais d'effort, quoi. C'est putain, ça me saoule, ça, vraiment. C'est.
Bref, voilà.
Est-ce que je passe pour un être bizarre si je vous dis que moi, le confinement, c'est ma meilleure life?
Non, pas du tout.
Non, mais attends. Parce que je comprends aussi, mais ça l'était jusqu'à il y a peu. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Tu vois,
parce qu'après, je. En même temps, crois que le dernier concert que je suis allé voir, ça se compte en décennies. Je sors.
C'était Henri Dess, il y a 35 ans.
c'était pas loin. Je sors plus. Boîte, boîte, non. Alors là, mon con. Ça
les discothèques.
Les discothèques, ouais. Je crois que la
les balles,
que
peut-être,
non,
les balles le week-end un peu, non?
ouais, mais les balles musettes, alors.
Ah oui, bah évidemment. Ouais, évidemment.
Évidemment, les vrais.
Henri Verschuren, hein, tout ça. On adore.
Et du coup le confinement c'est cool, quoi. Je suis bien. J'ai pas le manque de sociabilisation.
Ouais. Tu continues à bosser, t'habites avec des gens. Oui, forcément, t'es pas vraiment coupé du monde.
Tu discutes avec des potes de temps en temps autour d'un micro.
Non. Je discute avec des gens de qualité,
avec des professionnels.
Au sein d'une émission de professionnels, voilà. C'est quand même pas la même chose. Hein. En plus, on fait un petit peu d'affiliation au passage. Ça me permet de prendre un billet, un peu de caillasse que je peux réinvestir dans le Bitcoin et dans l'Ethereum.
Sur les épinards, comme on dit.
C'est formidable. en fait, c'est surtout que, très honnêtement, le confinement n'a pas profondément bouleversé mon quotidien. Parce que, même avant le confinement, j'avais pas tendance à sortir ou à tracer de fou. J'étais souvent avec ma femme et mes enfants quand j'étais pas au taf. Donc du coup, le confinement, je suis resté avec ma femme et mes enfants. Le seul truc qu'on a plus pu faire, c'est que on pouvait effectivement pas aller se balader ou quoi, aller voir la mer, ça c'est un peu relou. Mais au-delà de ça, oui, parce que j'ai l'avantage d'habiter dans le sud-ouest.
Ils visitent la maison du coup. De la des mer. Fois ils se baladent, ils vont voir la buanderie, ils font le tour du muret, tout ça.
J'ai l'avantage et le gros avantage, et ça par contre on se l'est dit plusieurs fois pendant le confinement, heureusement que j'ai un jardin. Parce que ça quand même c'est cool, ne serait-ce que pour les enfants.
Pour Mathéo SC117 déjà c'est bien aussi.
Celle-là elle est validée parce qu'en plus elle est technique.
Elle est bof,
Elle est technique. Vraiment c'est validé. J'ai vu l'arbitre, il a sifflé, il a dit ça joue, c'est bon.
La blague est valide.
Très bien. Voilà. Le troisième confinement, allons-y. Ça va, ça passe. Ça craint pas.
Non mais on parle d'un vrai confinement, on parle d'un truc où en fait les écoles sont ouvertes et tu vas bosser. Est-ce qu'on parle?
De ce que vous voulez, mais quand moi je parle de confinement, effectivement, je parle de ce qu'on avait eu en mars l'année dernière. C'est-à-dire un lockdown, quoi, comme on dit aux States.
J'avoue que là, tu vois, autant je me suis vraiment pendant 2020, ça a été une super année aussi pour moi grâce au confinement. Globalement, quoi, enfin bref. Mais là, j'avoue que depuis le début janvier, là, les bars me manquent, sincèrement.
Ça, c'est les Bretons, ça. Ça, c'est un vrai Breton, ça. Ouais. Un vrai Breton.
Et c'est même pas, en vrai, c'est même pas une question d'alcool, hein, en bon alcoolique que je suis. C'est vraiment retrouver des gens autour d'une table. Le bar, c'est un endroit où j'ai eu plein de discussions très sérieuses sur plein de choses, mais c'est surtout un endroit où t'as l'impression que rien n'est grave, que tout va bien et que c'est cool et que et que c'est la vie et que c'est trop bien et voilà. Et ça, ça me manque un peu, cette espèce de rassemblement de plein de gens qui discutent de tout et de rien et de voilà. Et toi, t'es avec tes potes et tu bois une petite mousse et c'est cool et voilà.
Je suis surpris qu'en tant que grand manitou de l'audiovisuel, tu t'es pas eu par exemple recours à un subterfuge genre le premier soir tu te filmes sur une place de ta table en train de boire et le deuxième soir tu te passes cette vidéo là et donc tu bois avec quelqu'un et tu te filmes en même temps et du coup à la fin de la semaine tu peux boire avec plein de fois toi-même et du coup avoir des discussions, répondre à leurs questions, à des questions que tu t'es posées le lundi, tu peux y répondre en étant quelqu'un d'autre le vendredi, tu vois. Il y a une sorte de magie à mettre en place, quoi. Il y a un truc à faire.
C'est vrai. C'est beaucoup d'énergie pour pas grand chose, tu vois, mais bon.
C'est vrai qu'Ocus, c'est pas du tout ça non plus.
Non. Oui, bon, c'est vrai. Oui. Effectivement, je déploie beaucoup d'énergie pour des choses assez vaines, effectivement. Mais ouais. J'ai presque fini, hein.
C'est pas vain, c'est de la création. Pour ça que t'as besoin de bouger.
C'est quand même une chance, nous, tu vois, tout ce temps qu'on est, nos passions peuvent être majoritairement exécutées, enfermées chez nous, en fait. Tu vois, on kiffe faire de la vidéo, faire de l'audio, écrire des trucs, lire des BD. Je me dis, on en a parlé un peu, le mec dont la passion, c'est d'aller jouer au foot le dimanche, putain, laisse tomber, quoi. Enfin, le gars, ça fait, ou même les mecs qui allaient dans les salles de sport ou les trucs comme ça fait un an que les gars n'ont pas pu faire ce qu'ils aimaient faire.
Ouais, et des gens moi, qui font perso, du tuning, même, fous, un tu vois, mais con, mais tu vois, mais... Non mais sérieux, en plus, enfin c'est vrai, hein, moi c'est pas du tout mon truc et voilà, mais des gens qui aiment faire du tuning, c'est chaud, quoi.
Non mais il y a tout, mais en fait toutes les activités extérieures ou qui extérieures, dans un lieu particulier où tu peux pas faire ça chez toi, genre tu peux pas faire un stade de foot chez toi, tu vois, c'est compliqué. Il y a plein de gens quand même qui ont été privés de leur passion et même si je les partage pas, je comprends que pour eux ça doit être galère dans le sens où déjà moi pour le coup j'ai pas fait de télétravail, j'ai continué à bosser, donc c'est vrai que là autant le premier confinement j'ai vu la différence un petit peu, autant là le deuxième très clairement c'était une grosse blague parce que moi j'ai continué juste à me lever pour aller travailler, à rentrer chez moi et à ne pas pouvoir avoir d'activité extérieur, où là tu te dis bon, est-ce qu'on me prendrait pas un peu pour un con, et là ça va être la même sauce et très clairement c'est sûr que oui, tu te dis bah enfin moi l'aspect sortie, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et tout, les bars ça je m'en fous un peu, mais ouais l'aspect culturel, tu vois, cinéma, concert et tout, c'est sûr que ça bon ça, tu te dis c'est un peu galère, sachant que tu peux être tassé avec des centaines de personnes dans les transports mais que tu peux pas être 15 dans une salle de cinéma à tourner le dos, enfin je veux dire si vous avez déjà été à une séance de ciné un dimanche matin à 10h, vous savez que vous êtes potentiellement seul dans la salle ou alors vous êtes 10, 15. Bon, bah 15 personnes avec des masques qui se tournent le dos dans une salle, il y a zéro danger en comparaison de ce qu'on voit tous les jours dans les transports. Donc il y a une incohérence qui finit par personnellement me saouler un peu, quoi, même si je suis totalement, on en a déjà parlé 50 fois dans l'émission pour ceux qui suivent, hein, geste barrière machin, je suis un défenseur ardu de tout ça. Mais il y a de l'incohérence dans la gestion, quoi. Ça, c'est, on peut pas le nier, quoi. Enfin, celui qui me dit non, c'est normal de gérer ça et de dire pas de cinéma, pas de concert. Par contre, vous pouvez être 400 dans les transports à 17h pour être chez vous à 18h.
Bon. Et 800 dans un supermarché.
Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai vu, j'en profite pour citer Akin Fiv, qui est un vidéaste qui parle de jeux vidéo. Et, il avait fait un petit tweet l'autre jour et qui m'a parlé parce que le gars disait, en fait, au premier confinement, il était en télétravail, il sortait faire ses courses genre aux heures où il y avait personne et tout. Là, finalement, couvre-feu, il se retrouve, bah son chef lui a dit, bah non, mais couvre-feu, c'est pas confinement, donc tu reviens au boulot. Sauf que bah maintenant, il me dit, je suis obligé d'aller faire mes courses genre le samedi avec tout le monde, parce que bah tu peux pas aller faire tes courses en sortant du taf à 18h, couvre-feu, machin. Donc en fait, en termes de contact humain et de risque de contamination, il est 100 fois plus exposé qu'il ne l'était en confinement, en couvre-feu. Tu vois, et ça, c'est des incohérences. Parce que je pense que malheureusement, les gens qui prennent ces décisions-là savent pas ce que c'est que de sortir à 17h du boulot pour aller faire leurs courses et être rentré chez eux à 18h. Tu vois,
je pense que quelqu'un va faire
leurs courses, quoi.
Un tweet que j'ai vu qui disait un peu la même chose en mode un gars qui disait ah bah voilà, maintenant on va plus être en couvre-feu, on va être en confinement, c'est bien, je vais pouvoir enfin pouvoir refaire mes courses, enfin recommencer à faire mes courses, parce que le mec avait des heures de taf qui font que bah à 18h il pouvait pas aller faire ses courses. Par contre quand t'es en confinement, bah du coup t'as juste ton petit papier à sortir et tu vas faire des courses quand tu veux, quoi. Donc c'est pas hyper
logique. Ce que nos anciens ont bien compris, hein, puisque moi j'ai jamais vu autant de vieux sortir 4 fois par jour faire leurs courses que pendant le confinement. Donc heureusement qu'ils sont à risque. Hein. C'est ce qu'on appelle les sélections naturelles, voilà.
Et à côté de ça, le couvre-feu, tu vois, quand ça a été déclenché, moi j'ai reçu une tonne d'autorisations et de dérogations en automatique, quoi.
C'est une tonne de PQ, je me dis c'est possible, parce qu'avec tout ce qui manquait dans les magasins,
avec tout ce que les gens achètent, ouais.
Ça m'aurait pas étonné.
La ville m'a envoyé deux attestations pour me dire votre gamin il est à l'accueil. Oh bah on vous file une attestation pour que vous puissiez venir le chercher après 18h. Le boulot m'a filé une attestation. LMTV parce que les chroniques elles se font à 18h45. Donc si je dois aller à la télé du Mans, bah du coup j'ai déjà quatre attestations permanentes. Je veux dire, je suis tout seul. J'ai pas une seule, ça suffit. J'ai pas besoin de et j'ai rien demandé. C'est-à-dire que spontanément, tout le monde t'envoie des attestations pour que tu continues à sortir et que tu puisses. Ah, et surtout, faut pas que tu travailles moins. Donc ton amplitude horaire, elle est pas réduite et tu peux sortir après le confinement. Bon, tu peux rien faire. Tu peux pas effectivement aller acheter. Tu récupères ton gamin à 17h45, il veut bouffer un cordon bleu. Et bah t'as intérêt à bien courir pour aller au Carrefour Market, hein, qui refuse les gens à 17h55. Alors que je voulais juste acheter des putains de cordons bleus en sans contact. Donc, c'est un scandale.
Santé, expérience de vie, voilà.
La tristesse.
Vous êtes ce que ça provoque.
T'as déjà eu un enfant sur les bras qui veut son cordon bleu et t'en as pas? T'as déjà vécu un traumatisme comme ça dans nos sociétés archaïques et contemporaines et tout ça occidentales?
On dirait la chanson des Inconnus, c'est genre
et vice versa. Ah d'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler aux gens que la vraie expression c'est vice versa? Et vice et versa, c'est une vanne des Inconnus. Donc faut arrêter de dire ça dans la vraie vie. C'est vice versa le vrai truc.
Merci.
Ah oui, d'ailleurs, un truc très con que j'entends aussi, c'est le troisième reconfinement. Non, c'est faux. C'est le deuxième reconfinement ou le troisième confinement. Puisqu'on a été confiné, puis reconfiné, un reconfinement et peut-être un deuxième reconfinement. Mais ce n'est pas un troisième reconfinement. C'est un troisième confinement.
Moi, ce qui m'énerve, c'est dans les pubs quand on dit vous avez une réduction de moins 5%. Moins 5%, c'est moins 5%. Une réduction de moins 5, moins plus moins,
ça fait plus.
Ça fait plus. Donc, venez acheter votre voiture pour avoir une réduction de moins de 5%. Bah, j'ai dit, attends. Pour un con, quoi. Non, j'ai entendu le truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi?
Eh oui, c'est ceux qui ont envoyé des bonnes notes à la JAPD, je pense, qui font les pubs.
C'est eux qui écrivent les pubs maintenant.
Ouais, c'est assez logique, ça me semble logique.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour s'occuper? Entre ce couvre-feu reconfiné. De toute façon, les écoles seront ouvertes, on va.
Mais ouais, en fait, moi je voyais plein de gens dire ça, pendant le confinement, je vais lire, je vais regarder des séries et tout. Mais moi, pendant le confinement, mon gars, j'ai continué à me lever à la même heure que d'habitude pour aller bosser comme d'habitude, pour rentrer comme d'habitude. Moi, j'ai eu zéro changement dans ma vie professionnelle. Enfin, ou très peu, quoi. Enfin, tu vois, c'est minime par rapport à effectivement d'autres personnes qui ont peut-être vraiment été confinées ad vitam chez eux et pour des raisons qui leur sont pas. Voilà, enfin, c'est pas de leur faute, hein. Mais je pense aussi que tu vois encore une fois on en parlait en off, mais c'est un sujet qui est assez intéressant et je pense que c'est intéressant d'avoir le retour des gens qui nous suivent par rapport à ça. Tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon et je serais curieux de voir si à la fin ça va pas créer, si ça s'éternise, ce qui est quand même déjà un peu le cas, si ça va pas finir par créer aussi certaines formes de clivage entre, bah par exemple moi je me mets dans ma posture à moi, du gars qui a continué à bosser et à voilà à faire son quotidien tout en subissant les contraintes imposées par le confinement, le couvre-feu, etc. et qui en plus pour certains n'ont pas pu du tout exercer leur passion ou leur. Et à côté de ça, des gens qui sur les réseaux sociaux vont quand même vendre ça en mode, moi il y en a quand même beaucoup que j'ai vu dire ah bah c'est les vacances quoi. Bah, en fait non, je veux dire pour les infirmières, les pompiers, les caissières, c'était pas des vacances quoi, tu vois. Donc il y a pas que
les réseaux sociaux. Il y a quand même des gens dans cette émission qui sont en train d'expérimenter le revenu universel depuis un an, qui sont chez eux, qui ne travaillent pas, pendant que trois personnes de cette émission vont au charbon pour sauver la France, hein. Donc moi, si le prochain confinement c'est
la main sur le cœur,
on reste chez soi, on est payé à rien foutre, alors là, ouais, ça m'intéresse, je suis d'accord. Par contre, si c'est encore putain de télétravailler et faire tout ça, non, ça ne m'intéresse pas. Et ouais, je dis pas ça avec rancœur ou jalousie.
Mais oui, mais tu vois, parce que nous, on en rigole, mais moi, je pense qu'à terme, ça peut créer un vrai clivage chez les gens. Quand, si ça s'éternise 2 ans, 3 ans, parce que, en vrai, on sait pas, qui peut deviner ce qui va se passer, aurait dit le mec dans Jurassic Park.
La vie trouve toujours un chemin?
Peut-être, oui. Et, en vrai, tu peux pas savoir comment, à l'usure, ça va se répercuter sur le mental des gens et comment ça peut monter les gens les uns contre les autres et tout. Parce qu'il y a des gens, en fait, il faut pas se leurrer quand ça sera fini. Quand on sera parti à un truc normal, il y aura de la récupération, tout ça. Il y aura de la récupération politique, sociale et tout.
On va les tondre. Les mecs qui ont vraiment été confinés, qui n'ont pas bossé, on va les tondre.
Non, mais il y aura de la récupération, on peut parier.
J'attends de voir parce que effectivement c'est quelque chose qui pourrait sembler logique, mais je me dis en fait tu prends par exemple le premier exemple moi qui me vient en tête c'est les barman par exemple. Effectivement les barman
et les barmaids. Hein, parce et, que c'est une profession.
Oui, pardon,
hein,
voilà. Bon. Les ah. gens qui travaillent dans des établissements où ils vendent de la boisson et de la restauration sur place. Bref.
Les gens dotés d'une licence 4.
C'est ça. ces gens-là sont, enfin, typiquement, là, ils ne font rien, ils ne peuvent rien faire, donc ils peuvent faire leur jardin.
Salaud.
Ils peuvent lire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et tout.
Consommer leur stock. Ils peuvent consommer leur stock.
Ouais, en plus. Bah mais oui. Le souci, c'est que c'est compliqué pour eux aussi, non pas parce que, voilà, ils ne font rien, mais parce que du coup leur entreprise est en péril et que moi j'aimerais pas être à leur place en fait.
Même ah
bah
non, si mais complètement.
Je ne travaille. Tu vois. Et en fait, c'est compliqué de cibler une catégorie de population précise pour se retourner contre elle en mode ah bah non, c'était vraiment des vacances.
Non mais
et
quand tu réfléchis, mais je veux dire, j'ai pas besoin de t'apprendre que la masse populaire, si on lui balance le cliché d'un mec ah regardez lui pendant que vous travaillez il n'a rien fait, il a profité. Ouais. Je veux dire tu fais des guerres civiles pour moins que ça et des épurations ethniques pour moins que ça, il y a pas besoin de le démontrer. Donc malheureusement, moi je suis pas du tout partisan de ce type de discours là, on est complètement d'accord. Mais ce que je dis, ce serait rigolo d'avoir le ressenti des gens et de voir comment ça va être récupéré à un moment par quelqu'un. Parce que ça le sera forcément. Influenceur d'influenceur, quand quelqu'un fera sa campagne pour l'élection 2022 là-dessus, pensez à moi. Et faites-moi un don sur YouTube.
Je suis curieux aussi, mais ouais, je sais pas du tout comment ça peut être récupéré. Ouais. Mais je suis aussi curieux que toi. Absolument.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui ont profité du quoi qu'il en coûte, qui ont eu leur salaire maintenu et tout, ce soit eux après qui remboursent à l'État et pas nous, tu vois. Parce que nous, quand même, il n'y a pas de raison. Hein, parce que quand même.
Alors je te rassure, quand il s'agit de rembourser à l'État, tout le monde est à égalité. En général, là, s'il y a bien un point sur lequel tout le monde est à égalité, c'est quand il faut rendre des sous à l'État. Hein, sauf Fillon.
Je commence ma campagne de façon tout à fait populiste et merde, on vient déjà me chier dans les bottes. J'ai pas commencé mon premier meeting et j'ai déjà des contradicteurs. C'est un scandale.
C'est un signe de réussite, ça.
Voilà, qu'est-ce qu'on va faire du coup pendant ce confinement? Regarder des séries encore.
Moi, je voulais faire des Lego. Mais en fait, je vais pas pouvoir parce que ça coûte cher et celui que je veux, il est en rupture de stock. Alors je fais oh fuck, je vais pas en faire.
C'est le Slave One encore?
Ouais, c'est le Slave One. J'en ai vu un, c'est écrit état comme neuf, mais j'ai pas confiance pour des Lego.
Moi non plus, j'ai pas confiance.
Voilà. Il coûtait cher aussi, donc j'ai pas. Mais ouais, il n'y a plus de Slave One. Ça n'existe plus en Lego.
Parce que l'esclavage a été aboli.
Du coup, si vous avez un Slave One sous la main, que vous êtes prêt à céder à Valentin pour l'occuper pendant son confinement, il sera content.
Oui. T'as dit quoi, Chris?
J'ai dit l'esclavage a été aboli, c'est pour ça.
En plus, bah oui.
Il y a des usines de téléphone où ça fonctionne encore bien.
Et vous? Qu'allez-vous faire? Parce que moi, du coup, je vais pas faire de Lego, mais du coup, je vais rien faire. Si, je vais finir Ocus, mais ça, c'est le truc qui rythme ma vie depuis un an, du coup, maintenant, mais ça changera pas. Mais vous, du coup, vous allez faire quoi?
Moi, je vais télécharger plein de trucs, mais comme j'ai pas la fibre, ça va prendre du temps. Donc, déjà, ça va m'occuper un petit peu.
Donc, on sera sorti du confinement quand tu pourras y jouer, quoi.
Ah, c'est
j'ai
ça.
Une notif de Adopi, par contre, là, qui nous dit attention, Mathieu, on te surveille.
Ah non, c'est pour télécharger des trucs Lego. Enfin, Lego, pas des Lego, mais des trucs Lego. Ah bah oui.
Lego de la loi.
Lego de la loi, bah oui, tout ça.
Et heureusement qu'il n'y a pas un test là-dessus à la JAPD, parce que j'aurais eu faux. Pou, pou, pou.
En fait, il est drôle quand il participe au truc, Chris.
Tu devrais faire plus d'émissions avec nous, Chris. Ouais. Ça serait bien.
C'est vrai, je sais, mais des fois, j'ai pas le temps.
Bah, des fois, t'es sur Arte, tout ça, c'est compliqué. Bah,
c'est vrai, ouais, c'est ça, putain, quoi. Ouais. J'ai eu le choix entre vous et Arte, je dis, voilà.
Allez, ciao les nazes!
En vrai, ça me fait vraiment plaisir. Des fois, on dit, les youtubeurs, ils veulent de l'argent, tout ça, mais c'est ce que je disais, pour moi, la vraie reconnaissance, c'est genre, Arte. Il y a quoi au-dessus? Cyril Hanouna, c'est tout.
On peut expliquer de quoi on parle, du coup, peut-être.
Non, on peut pas en parler, non, du coup, je préfère pas. Non, j'ai participé à un live de l'émission Trax de Arte, voilà.
Ah.
Et ceux qui me suivent sur la chaîne de Comics Race le savent déjà.
Mais on t'a pas vu à la télé.
Sur Twitter aussi, hein, parce que sur Twitter, tu l'as quand même bien matraqué. Hein.
C'est vrai que j'ai fait un tweet que j'ai retweeté, Vraiment, ces influenceurs, ils sont incorrigibles.
Moi, j'attends de te voir à la télé, j'ai hâte. J'ai hâte de te voir.
Alors,
en prime time,
si tu as un décodeur Canal Plus, dimanche soir.
Ah oui, mais c'est très bien dans ce programme-là.
Dimanche soir sur Canal?
Ah ouais,
j'ai pas la ref.
À minuit, minuit et des bananes.
D'accord. Ouais. C'est dimanche soir à minuit sur Canal. D'accord.
Voilà.
Ah, moi, à mon époque, c'était l'équipe du dimanche, mais d'accord, ok.
Ça a changé, non, en vrai, c'était le samedi, le porno de Canal Plus.
Oui,
voilà.
Ah oui, bah, oui, c'est vrai, c'était le samedi. Ah oui, dimanche soir, c'était.
Ma blague n'est pas valide. Je vois un arbitre qui me fait signe, la blague est annulée.
Le film érotique sur M6 le dimanche soir.
Je crois qu'on a des grandes références.
Ah, ben, c'est vrai que mes, ceux qui ont tenu jusque-là, émoi, ah vraiment, ils ont regardé des trucs chouettes à la télé. Hein. Et après, ils disent du mal de Lupin. Franchement, c'est un peu gonflé. C'est un peu gonflé.
Ah, le jour où je verrai Omar Sy dans un porno, peut-être que j'aurai un regain d'intérêt pour ce monsieur.
Non, non, dans un érotique, pas dans un vrai porno.
C'est ça.
Non, en vrai, un truc avec des toilettes, avec tout ça.
Avec le deepfake, on pourrait d'ailleurs faire un sujet tech. Monsieur. On pourrait faire un sujet tech sur le deepfake parce qu'on en a un peu parlé d'ailleurs dans ce fameux live de Arte et je trouve qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Et il y a de plus en plus de porno fait avec du deepfake où ils remplacent le visage des comédiens par des visages de stars. Donc je pense que c'est possible de faire toi-même avec un peu de bidouillage ton petit porno avec Omar Sy et Maïté par exemple. Qui n'en a pas envie, hein? Voilà.
Ah, non. J'aurais pas choisi Maïté, étrangement, mais
Mais non, mais tu peux faire rencontrer des gens qui ont jamais pu se connaître, en fait. Ouais. Qui viennent de d'époques différentes et tout.
Omar Sy et Marine Le Pen. Voilà. J'adorerais voir ça.
Louis de Funès et Ariana Grande, par exemple.
Ce serait... Ok, banco. On fait ça.
Mais là, mais t'imagines le level d'usurpation d'identité? C'était en deepfake, quand tu te fais flasher sur l'autoroute. Et du coup, on a tous la tête de Yanda.
C'est ça. Ah, vous pouvez y aller, hein, ça marche.
J'ai perdu 20 fois mon permis ce mois-ci, fait chier.
Bah voilà, on a bien fait ce sujet du deepfake, dis donc, c'était très sympa.
Ah, c'est vraiment génial. Vraiment,
ça valait le coup.
On a bien fait d'en parler parce que.
C'est bien qu'on ait pu parler. Eh ben écoutez, je pense que ça a été aussi bien traité que la fibre.
Et voilà, encore une fois, les gens repartent de cette émission en étant des experts grâce à nous. Hein. Ils ont participé à leur culture et ça, c'est quand même beau. Je veux dire, on les aide à avoir un point de vue qu'ils pourront partager avec leurs amis dans les. Bah non, pas dans les bars, mais bon, bref.
Dans les Zooms.
Dans les Zooms.
Ouais. Non, mais je vous laisse finir, je suis en train d'effacer les sujets qu'on a traités du coup, du planning. Tac. Les sujets dont on voulait pas.
Bah, désolé à tous ceux qui ont tenu jusque-là, ce qui était intéressant, c'était pendant les 20 premières minutes de l'émission.
C'est vrai que c'était vachement intéressant quand j'ai parlé.
Je plaisante.
Et après, je trouve qu'à partir du moment où j'ai arrêté de parler, c'était beaucoup moins intéressant quand même.
Ouais.
C'est quand on a parlé des proverbes, c'était bien.
Oui, c'est vrai, ça c'était bien. Ah bah tiens.
Vrai, c'était pas mal. Il faudrait que maintenant, à chaque fois d'émission, on débriefe notre propre émission. Tu veux qu'on fasse ça à chaque fois maintenant?
Quelle horreur. Ah, quelle horreur.
Ah, je trouve qu'à la 22e minute, on a été super bon.
Moi, j'ai été particulièrement excellent, hein, d'ailleurs.
comme toujours. Tu sais, après, les mecs se congratulent comme d'habitude, vous avez été excellent.
Non, mais je propose qu'à partir du 30e épisode, on fait des commentaires audio de nos épisodes précédents.
Parce qu'on va aller jusqu'à 30 épisodes.
Voilà. Avec une sorte de mise en abîme, tu sais. Quand t'arrives au 60, tu commentes le commentaire audio.
Le commentaire, waouh.
C'est très méta, tout ça.
Ça va être formidable. On n'a toujours pas eu vraiment le pizza game, on pourra pas l'avoir, hein, c'est pas demain la veille qu'on va pouvoir avoir ça.
C'est chaud.
On va pas parler des drogues parce qu'on en consomme pas. Yanda aime toujours pas les jeux de rôle. Oh là là, tous ces sujets qu'on ne va pas pouvoir traiter.
Quoi?
Yanda n'aime pas les jeux de rôle. Yanda n'aime pas les jeux de rôle.
Ça sort d'où ça?
Ben c'est une déclaration que tu nous as fait. Moi je n'aime pas les jeux de rôle.
Ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit un truc.
Que je n'aime pas les jeux de rôle.
Non, c'était peut-être pas exactement ce que t'as dit, mais.
Alors moi, je suis toujours dans le camp d'Yanda, donc je n'ai pas le souvenir qu'il ait dit ça. Voilà.
On est dans de la diffamation, diffamation, quoi. Je veux dire, ça, c'était au moment où vous avez parlé de la gueule de rôle et que vous avez dit, ah ouais, ça pourrait être bien d'en parler. Et puis après, vous avez dit, ah, je crois que Yanda, il a dit ça. Mais vous avez complètement pété les câbles.
La gueule de rôle, alors, on dit chez vous, c'est ça?
Tu peux. Ça après, ça dépend de quel type de substance illicite tu souhaites parler, mais on
dirait le nom d'une chanson paillarde. C'est genre ça commence. La Pedro, ça commencerait comme ça, tu vois. Je sais pas, il y aura un truc.
La Pedro, la poudreuse, tout ce genre de choses.
La schnouf.
Moi, je connais pas. Tout ça pour moi, c'est comme les licornes, tu vois. J'en ai beaucoup entendu parler, j'en ai jamais vu, goûté, tout ça testé en vrai. Donc pour moi, c'est de la fiction, tout ça. C'est du. C'est de l'heroic fantasy.
Je vais encore faire un monologue, donc c'est pas la peine, on en parlera pas, c'est chiant.
Moi, je connais quelques drogués qui m'ont raconté leurs expériences. C'est intéressant, mais ça ne m'a pas donné envie d'en consommer.
C'est bien. Des drogués, tu veux dire?
Des drogués, non, ouais.
Ne consommez pas de drogués chez vous.
Même bien cuit, faites attention.
Non, mais moi, j'ai rien du tout contre les jeux de rôle, bien au contraire. Hein.
Prouve-le. Est-ce que tu peux le prouver?
Lance un des 20, vas-y.
Qui fait le MJ?
Eh bien, ça tombe bien, j'en ai toujours un sur moi. Regarde, voilà.
Voilà.
J'ai monté à 16 faces.
Je fais un test de dextérité.
Putain, en sens.
Fais un test d'élocution aussi pendant que tu y es.
Ça, c'est malin, hein, de se moquer. Hein. Franchement, bravo. Hein. Je vais mettre un commentaire, moi, sur votre podcast de merde. Alors, ton référencement, tu vas te le foutre dans ton cul, tu vois.
Moi, j'irais bien me laver les mains.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il serait pas le temps de se laver les mains et le pubis?
Ben, moi, je vais aller faire un jeu de rôle pour la peine, hein. Voilà, niquez-vous.
Et puis, moi, je vais parler de mon nouvel ordinateur tout seul.
Un nouvel ordinateur?
Non, trop tard. Ouais. Trop tard.
Ah. C'est dommage parce que ça aurait été le truc le plus intéressant de cette émission. C'est triste.
Quand j'ai commencé à vouloir en parler, j'ai été conduit deux fois. Vous écouterez le replay, vous verrez à quel point vous avez été méchant avec moi, vous avez été dur, vous avez été sale, vous avez été violent, c'était gratuit. Donc, si vous voulez entendre parler de cet ordinateur, retrouvez-moi sur mon propre
podcast. Moi, j'ai fait couler l'eau, hein. J'ai mis le savon dans mes mains. J'attends.
Non, mais comme vous attendez, je me dis, je vais laisser couler. C'est pas mal, en fait. Bon, après, c'est pas très bon pour la planète. C'est pas très bon pour la planète de laisser couler.
C'est vrai, c'est vrai.